Bonsoir à tous. Je présente par avance mes excuses aux fans de Bernard Lugan, puisqu'ils ne l'entendront pas ce soir, mais ils peuvent largement se rattraper en lisant son journal, L'Afrique réelle, et en lisant son livre qui vient de paraître, et dont naturellement le titre m'échappe pour l'instant, mais ça me reviendra, dès qu'on m'aura téléphoné pour me le donner. Bernard Lugan, le professeur Lugan qui devait assurer l'émission ce soir, a jugé que, étant donné mes aventures qui m'étaient arrivées, peut-être certains auditeurs préféreraient entendre mes explications plutôt que d'entendre parler d'histoire qui n'est pas forcément un sujet d'actualité. Donc il viendra la prochaine fois, je crois que c'est le 19, sous réserve, il viendra faire son émission avec ses invités, les invités qui étaient prévus pour aujourd'hui. Voilà. Je voudrais dire d'abord que je voudrais m'adresser aux flics de la pensée et à leurs chiens de garde et leur dire qu'ils peuvent retourner à la niche. On va faire attention ce soir, il ne se passera rien. Donc c'est pas la peine qu'ils perdent leur temps, ils peuvent aller faire leur travail ailleurs et on va essayer de se tenir correctement. Bien que le sujet soit un petit peu sujet à des énervements, aussi bien le sujet qui vous parle que le sujet que nous allons traiter ce soir, avec quelques invités qui ne sont pas encore arrivés mais qui sont en route. Et donc ce sujet, c'est en quelque sorte la presse et la justice, la liberté de la presse et la justice. Je voudrais pas qu'on croie que je veux poser aux martyrs, c'est pas du tout le genre de la maison. Et je dois dire qu'évidemment, quand on sait ce qu'ont subi certains journalistes français et certains des héros que j'ai, moi, dans mon petit panthéon personnel, je ne me permettrai pas de faire la moindre comparaison, elle serait évidemment insupportable. Mais enfin, quand même, ça faisait un certain nombre d'années. Je crois qu'Amil Galli de Rivarol me disait que, selon elle, qui est une... très très bonne connaisseuse de du métier de la presse, selon elle, le dernier journaliste à avoir été menotté dans ce pays, c'est Maurice Gaïd, qui était le patron de Rivarol il y a une vingtaine d'années. Donc voilà à peu près une vingtaine d'années, ou 25 ans, qu'on n'avait pas passé les menottes à un journaliste. Il était temps qu'un magistrat mette fin à ce laxisme redoutable. C'est fait. Et maintenant, la date, je suis désolé de prendre la place dans l'histoire, la petite histoire de la presse française de Maurice Gaïd, comme dernier journaliste menotté, enchaîné, mais je pense que du haut du paradis des journalistes, il me pardonnera cette usurpation. Maintenant, la date, ça sera le 30 mai 96, jusqu'à la prochaine fois. Et à mon avis, vous voyez, comme le dit Jean Madiran, ça ne devrait pas attendre encore 25 ou 30 ans. Alors, je disais que les chiens de garde de la police de la pensée peuvent retourner à la niche, et ils ont du travail, vous savez, ne serait-ce que pour apprendre ce métier. Moi, j'ai été frappé dans cette affaire, que j'ai lu les journaux, pour une fois qu'on parle de moi, j'ai donc lu les journaux, et j'ai été absolument frappé par la vérification immédiate, aveuglante, éblouissante, de une chose que je subodorais vaguement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de journalistes en France et il n'y a pas beaucoup de journaux. Il y a du papier sur lequel on imprime des mots, ces mots qui sont écrits par des gens qui sont payés pour ça. Mais ça, ça ne fait pas de la presse. Parce que sur ce papier, on peut écrire n'importe quelle cochonnerie, on peut mettre de la publicité, on peut mettre des mensonges. Et n'importe qui peut écrire dans la presse, il suffit d'avoir de l'argent pour se le payer, c'est pas difficile, il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent et qui se payent des journaux. Et alors je vais vous donner des exemples, je vais vous montrer comment travaille la presse française. Enfin la presse et française, c'est deux mots qui ne conviennent pas très très bien à la situation. Donc je vais vous montrer comment travaillent ces gens-là. Vous allez voir, c'est tout à fait intéressant. On va commencer par... on va commencer par l'AFP, puisque c'est l'AFP qui est distributrice de la formation. Alors, l'AFP a publié, c'est hier, avant-hier, 3 juin, un communiqué qui dit la chose suivante. C'est intitulé Justice FN Presse. Ça, ce sont les numéros de référence qui permettent de retrouver une dépêche dans le système AFP. Le titre est « Mise en examen controversée d'un membre du Front National pour incitation à la haine raciale ». Et je vous lis le texte. Paris 3 juin AFP, Serge Debeketch, responsable de la communication à la mairie FN de Toulon, a été mis en examen le 30 mai pour incitation à la haine raciale dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à la demande du ministre de l'Intérieur. Michel Debré, a-t-on indiqué lundi, de source judiciaire. Monsieur Debeketch est poursuivi en tant que directeur de publication du Libre Journal de la France Courtoise à la suite d'un article paru dans la page sportive de ce journal confidentiel. Le journal présent s'est fait l'écho dans son édition de samedi des circonstances dans lesquelles Serge Debeketch aurait été malmené par les policiers venus l'appréhender sur mandat d'amener du juge d'instruction parisien Robert Chalian, ce qu'ont démenti lundi des sources judiciaires. M. Debeketch avait dérogé à une première convocation du juge d'instruction en raison de son état de santé. Le juge avait alors mandaté un expert médical qui avait estimé que M. Debeketch, bien que très malade, était en mesure de répondre à une convocation, ont précisé les mêmes sources. Alors c'est donc ce qu'on appelle une dépêche AFP. Vous savez que l'AFP est en France une des sources auxquelles s'abreuvent les gens qui écrivent dans les journaux pour écrire ce qu'ils écrivent dans leurs journaux. Donc c'est une dépêche qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 lignes. Eh bien on est en face d'un exploit qui est quand même assez étonnant. C'est que pratiquement il y a 16 fautes dans ces 16 lignes. Il y a pratiquement une erreur par ligne dans une dépêche AFP dont toute la presse va s'emparer pour en faire ses choux gras. Alors je ne vais pas m'amuser à décortiquer toutes les erreurs, mais je vous assure, il y a pratiquement une erreur par ligne. C'est tout à fait étonnant. Je me référerai au papier que Sanders publie dans Présent, du 6 juin 1996, c'est-à-dire Présent qui est sorti cet après-midi et qui est en vente maintenant et qui sera dans vos boîtes aux lettres demain matin si vous êtes abonné. Et vous lirez un papier intitulé « L'arrestation de Serge Debeketch, le démenti des sources judiciaires qui ne fait que confirmer la réalité des faits ». La dépêche de l'AFP est ainsi titrée, mise en examen, etc., etc. Ça commence mal, dit Sanders, et ça ne continue pas bien, puisque, effectivement, par exemple, relève-t-il, je ne suis pas membre du Front National, c'est vrai, je n'ai jamais été membre du Front National, pour une raison extrêmement simple, c'est que j'ai tendance, et on m'en fait souvent la remarque et parfois le reproche, à avoir le verbe un peu vif. Et donc j'ai tendance aussi à dire ce que je pense au moment où je le pense, et c'est pas une attitude militante intéressante pour un parti, parce que si je suis pas d'accord avec des positions du mouvement, je le dis. Et étant donné le nombre de rascals de presse, de canailles de plumes, de vautours de stylos qui règnent dans ce pays, c'est pas utile absolument de leur donner l'occasion systématiquement de titrer des papiers sur le thème des tensions à l'intérieur du Front National, des fissures à l'intérieur de la droite nationale, des disputes à l'intérieur de l'extrême droite. Ils n'aiment que ça. Donc on leur donne pas cette occasion-là. J'ai toujours voté à tous les tours des élections pour le Front National. Je dis bien à tous les tours des élections. Hein ? Toujours voté pour le candidat du Front National. C'est la meilleure solution. Vous voyez ? Si vous n'êtes pas sûr qu'il est au deuxième tour, au premier tour, vous prenez deux bulletins et vous mettez un bulletin quand même au deuxième tour. Comme ça, c'est pas un vote nul, ça n'est pas une abstention, c'est un vote de protestation contre le système. Moi, c'est ma position, je l'impose à personne. Donc, je n'ai jamais fait partie du Front National comme militant. J'ai fait partie du Front National, j'ai été candidat du Front National dans diverses élections parce que il y avait une époque où, contrairement à ce qui se passe maintenant, on ne se bousculait pas pour participer aux élections du Front National. Il faut dire qu'il y avait plus de coups de pied au cul que d'indemnités parlementaires à ramasser. Et maintenant, c'est un petit peu mieux. On a des élus, le Front National a des élus dans à peu près toutes les élections qui n'ont pas échappé au contrôle démocratique normal. Évidemment, dans les grandes élections comme les élections parlementaires qui sont faites par des forces occultes qui règnent sur la France et en dehors de la France, eh bien, le Front National n'a pas encore de candidat puisque, par exemple, le PNAI Brit a interdit la participation du Front National à la représentation parlementaire en faisant obstacle par un pacte qui a été passé avec les partis de la majorité et en 1986, si je ne me trompe pas, ce pacte engage les partis de l'actuelle majorité, c'est-à-dire le RPR, l'UDF et les partis satellites, les petits mouvements satellites, à ne passer en aucun cas des alliances avec le Front National. Il faut savoir que le B'nai B'rit est une organisation, c'est une secte maçonnique qui présente la particularité d'être strictement réservée aux personnes israélites. Et par conséquent, c'est une secte internationale. Et cette secte internationale a dicté ses ordres au RPR, à l'UDF. La chose n'est pas une invention. Elle a été annoncée par une dépêche émanant des services de cette secte maçonnique internationale, les B'nai B'rit, et qui a été publiée par Le Monde en 1986. À l'époque, personne n'avait repris cette information, à l'exception de Jean Madiran en présent. Jean Madiran est revenu plusieurs fois sur cette information. Il en a tiré toutes les conséquences possibles. Il a posé de nombreuses questions, non pas à la secte maçonnique des B'nai B'rit, qui a parfaitement le droit de faire ce qu'elle veut, c'est une organisation indépendante, mais aux organisations politiques françaises. Jean Madiran a demandé aux gens du RPR, aux gens de l'UDF, aux gens de des organisations satellites du pouvoir majoritaire actuel, qui était à l'époque dans l'opposition, expliquez-vous, est-ce que cette information est exacte ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Il n'a jamais pu obtenir de réponse. La seule réponse qu'il ait obtenue, c'est bien des années plus tard, la déclaration parfaitement convenue selon laquelle c'était un agité du bocal qui racontait n'importe quoi, qui fantasmait sur une prétendue internationale qui aurait contrôlé les partis politiques. On essayait de faire passer tout ça pour une invention. En réalité, maintenant, on sait d'une façon absolument certaine dans quelles circonstances ce communiqué a été publié. On sait pratiquement pourquoi il a été publié. Jean Madiran a étudié la question de très près. Il pense qu'il s'agit d'une erreur de manipulation au montage du Monde. En quelque sorte, on a publié, on a rendu public ce communiqué qui ne devait pas être rendu public. Voilà ce que j'avais à dire sur cet aspect de la question. Et du coup, à force de parler de tout ça, j'ai complètement perdu le fil de mes idées, mais j'en reviens au fil de mes idées, voilà, je le retrouve. Alors, ces journaux, c'est cette dépêche de l'AFP, qui me concerne et qui comprend 16 erreurs en 16 lignes à peu près, a été reprise dans plusieurs journaux, Le Monde, Libé, un journal qui s'intéresse à moi particulièrement, puisque c'est Var Matin, qui est le journal de Toulon, et qui est un journal de combat contre la majorité Front National de la mairie de Toulon. Et alors ces gens-là considèrent, eux aussi, que je suis membre du FN, ils l'écrivent, et ils font un titre qui est très amusant, ils disent « Un membre du FN mis en examen ». Alors ça, c'est le type même de la manipulation crapuleuse d'information, puisque, bien entendu, étant donné la canaillerie moyenne de la classe politique varoise, tout le monde se dit « chic ». Après les différentes canailles des partis de la majorité qui sont allés en prison, sénateurs, députés, conseillers régionaux, conseillers généraux, qui sont allés en prison dans le Var, enfin, on se paye un gars du Front National qui est en prison lui aussi. Manque de chance, comme tous les autres journaux, le Var Matin publie des informations qui sont totalement fausses. C'est-à-dire qu'ils disent aussi que je suis membre du Front National, ils disent en plus que j'occupe des fonctions à la mairie que je n'occupe plus en réalité depuis plusieurs mois pour des raisons de santé. Par conséquent, c'est un article qui est nul et non avenu. Mais ça, c'est un détail qui n'intéresse personne. Sinon que, il faut quand même être assez clair. Je prends souvent cet exemple. Si on vous vend des petits pois, une boîte de petits pois, et qu'à l'intérieur de la boîte de petits pois, vous trouvez un rat crevé, vous renvoyez la boîte de petits pois au marchand et vous vous faites rembourser. Quand vous achetez un journal, un quotidien d'information, c'est pour avoir des informations. Si dans un journal quotidien d'information vous trouvez des mensonges, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez ce journal et vous le mettez dans votre poche, puis ensuite vous vous en servez, soit à des fins que la bienséance m'interdit de préciser, soit pour envelopper du poisson, soit pour un tout autre usage. Mais on n'a jamais vu un lecteur de quotidien renvoyer son quotidien en disant « Votre journal est un journal menteur, ça n'est pas l'objectif d'un journal de vendre des mensonges, c'est l'objectif d'un journal de vendre de l'information, par conséquent vous trahissez ma confiance, je vous prie de récupérer votre tissu de mensonges et de me rendre mon argent. » C'est pourtant ce que devraient faire les lecteurs des quotidiens. Quand vous achetez un quotidien et que vous trouvez dedans une information que vous savez fausse ou controuvée, vous avez le devoir moral, le devoir de citoyen et le devoir de consommateur de renvoyer ce journal en exigeant, ou l'envoyant en bordu d'ailleurs, et vous exigez le remboursement des 7 francs ou des 4 francs 50, quelle que soit la somme que vous avez versée, vous exigez le remboursement de la somme versée parce que le produit qui vous a été vendu ne correspond pas à la réalité. À l'heure actuelle, un abonnement à l'AFP coûte à peu près, enfin je ne sais pas d'ailleurs combien ça coûte, mais ça coûte au moins 10 000 francs par mois pour un organisme de presse. Est-ce que vous pensez qu'il est normal que pour 10 000 francs par mois, on reçoive l'information suivante et qu'on apprenne que, je répète la dépêche AFP, dans le cadre d'une information que j'ai été arrêté, moi, le 30 mai, pour incitation à la haine raciale, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à la demande du ministre de l'Intérieur, Michel Debré. Est-ce que vous croyez vraiment que ça vaut 10 000 francs par mois, une information selon laquelle, premièrement, c'est le ministre de l'Intérieur qui diligente les poursuites en France? Alors pourquoi passe tout bon? Je crains fort que la rime soit bonne. Et deuxièmement, pour apprendre, moyennant 10 000 francs par mois, au moins d'abonnement, que M. Michel Debré, dont tout le monde sait qu'il est à peu près complètement alzheimérien, revêtu de son, comment appelle-t-on ça, entonnoir favori dans la région de Tours, et de savoir qu'il est ministre de l'Intérieur. Moi, c'est la surprise de la journée. Je ne savais pas du tout que Michel Debré était revenu au pouvoir en France. Je croyais que c'était son fils qui était ministre de l'Intérieur. Mais comme je suis un citoyen et que je lis l'agence France Presse, agence officielle financée par les contribuables, je vous dis, je vous livre une information, chers auditeurs de Radio Courtoisie, qui, comme moi, pensiez sottement que M. Debré, ministre de l'Intérieur, était le fils de Michel, vous avez été trompé. L'AFP que vous financez de vos deniers, et dont mon excellent ami Jean Miot a pris la direction il y a quelques mois, et chacun sa croix, mon pauvre Jean, et bien que l'AFP vous dit que la vérité, c'est que c'est Michel Debré qui est ministre de l'Intérieur. Et que ce Michel Debré, entre deux crises nébuleuses de confusion mentale, donne au juge Robert Chalian, qui se dépêche d'obtempérer, l'ordre de se saisir sans désemparer de Serge de Bekech, qui est à la fois membre du Front National et responsable de la communication de la mairie de Toulon, afin de le poursuivre jusqu'au tréfond de sa retraite pour incitation à la haine raciale. Voilà comment travaille l'AFP. Alors naturellement, quand on voit ça dans l'AFP, je l'ai dit une chose grossière, je me suis promis de ne pas dire de choses grossières, donc je ne dirai pas piscopie. Je dirais les salariés des catalogues publicitaires que sont devenus les journaux écrivent, comme Varmentaire, que je suis un membre du FN, où on lit aussi le même genre d'informations dans Libération. Et dans Le Monde. Mais dans Libération et dans Le Monde, on trouve d'autres choses qui sont tout à fait aussi intéressantes. Par exemple, le samedi qui a suivi cette modeste petite affaire, le Front National de la Jeunesse avait organisé à Paris une exposition culturelle, une journée culturelle, qui était destiné à présenter des toiles, des tableaux, des livres, recommandés en quelque sorte à la jeunesse nationaliste française. Alors, La presse, qui n'avait absolument pas annoncé, en dehors de la presse habituelle, proche du mouvement, qui n'avait pas du tout annoncé cette manifestation, en revanche, y a mandé les fidèles auxiliaires de la police de la pensée, qui ont rédigé leur rapport. C'est pourquoi certains articles ressemblent à des rapports de gendarmerie. Plus exactement, d'ailleurs, on pourrait dire à des lettres de dénonciation, ça serait plus précis. Alors, par exemple, dans Libération, on lit que le journaliste Serge de Beketch a jugé qu'un bon militant nationaliste français ne doit pas se laisser boucher par les oreilles par MC Solar, parce que c'est de la... Alors là, je répéterai pas le mot, puisqu'on est à la radio. Il y a suffisamment de mode musique française pour ne pas perdre son temps avec cette cochonnerie. Alors, quand même, on est là dans le pur fascisme. Il faut bien reconnaître que ne pas aimer le rap de messieurs MC Solar, NTM, Public Enemy et autres gangs ethniques, eh bien, c'est du fascisme à l'état pur, n'est-ce pas ? Et que de dire qu'il y a de la bonne musique française de tradition, que c'est peut-être pas la peine de s'encombrer les oreilles avec cette sous-musique, eh bien, c'est aussi du fascisme pur. Et heureusement, il y a un journaliste de Libération qui est là pour surveiller la chose et qui dit la chose suivante. Emporté par son élan, Beketch, accusant Jacques Chirac d'être un zombie manipulé par des forces occultes, a hurlé « Nos adversaires veulent nous tuer ». Alors, d'abord, c'est parfaitement vrai que j'ai accusé Jacques Chirac d'être un zombie manipulé par des forces occultes pour une raison très simple, c'est que j'ai pas attendu ce jour-là pour le dire, je le dis depuis fort longtemps, je le dis parce que je le pense, et je le pense parce que j'en ai de nombreuses démonstrations. Je pense que M. Chirac est un zombie manipulé par des forces occultes, ce qu'on appelle aussi, en langage courant, un golem. Ça s'appelle également un golem, ce genre de personnage. Et je pense que M. Chirac est un golem. Ensuite, je n'ai pas hurlé du tout. Et alors, l'ennui pour le journaliste de Libération, c'est qu'il y a un enregistrement de cette déclaration que j'ai faite, et on peut vérifier sur cette déclaration, tout simplement sur cet enregistrement, que je ne hurle pas. Et puis, on me reproche d'avoir appelé au meurtre. Alors ça a été le grand truc du week-end, dans Libération, dans Le Monde, et ça dure encore, puisqu'on me dit que le Canard Enchaîné aujourd'hui remet ça, on m'accuse d'avoir appelé au meurtre, parce que j'ai dit la chose suivante, qui est simplement un constat de bon sens, et qui m'avait été d'ailleurs, constat de bon sens sur lequel mon attention avait été attirée il y a quelques jours par un ami, qui est un journaliste parfaitement prudent, serein et distingué, et qui m'avait dit, voilà, le résultat des élections israéliennes est quand même une leçon, parce que la droite israélienne a tué Yitzhak Rabin, et le résultat, c'est qu'elle a fini par gagner les élections. Et donc, me dit-il, c'est la preuve qu'en politique, il faut tuer ses ennemis. C'est pas moi qui l'ai inventé, M. Chirac savait ça depuis longtemps, M. Léotard le sait depuis longtemps, M. Giscard l'a su pendant longtemps, le secret de la politique, comme le secret des échecs, c'est de tuer son adversaire. Quand on dit ça, en France, il y a une habitude dans le langage, mais évidemment ça ne peut pas être connu des journalistes de Libération ou du Monde, c'est une technique de langage qu'on appelle la métaphore, vous voyez. Par exemple, quand on dit « il est tombé sur un bec », ça ne veut pas dire que la personne dont on parle est tombée sur un oiseau mort dont le bec l'aurait blessé. Quand on dit « il a pris un bœuf en argot », ça ne veut pas dire qu'il s'est emparé d'un mâle châtré de vache folle. Ça veut dire qu'il s'est mis en colère. Eh bien, quand on dit « il faut tuer son ennemi », ça veut dire « il faut le liquider en quelque sorte politiquement ». Je me suis douté d'ailleurs, quand j'ai parlé de la leçon que nous avaient donnée les Israéliens, qu'on allait tirer, que les journalistes présents, enfin que les auxiliaires de la police de la pensée présents, allaient tirer argument de mon propos, et j'ai immédiatement précisé que, évidemment, il ne fallait pas entendre ce propos au sens propre, mais dans son sens figuré, et que je ne pensais pas, bien sûr, qu'il fallait tuer M. Chirac d'une balle dans la tête ou d'un coup de couteau dans le dos, car ce ne sont pas des mœurs que nous pratiquons. Il faut dire que la droite nationale a plus de morts dans ses rangs que de trophées dans ses salons. Vous voyez, on n'a pas beaucoup, nous, de morts à notre actif en tant que tueurs. On a plutôt des morts en tant que victimes. Donc, j'ai évidemment jamais dit qu'il fallait tuer M. Chirac. Et bien, dans Libération, ça donne, retrouvant ses esprits, Beckett a tout de même glissé qu'il ne souhaite pas tuer Chirac. La précision a quelque peu atténué l'enthousiasme du public. Pourquoi j'insiste à ce point sur cet aspect de la chose? Parce que, alors naturellement, dans le monde, vous avez droit à la totale. Il faut tuer son ennemi, affirme un représentant du FN. Donc là, il y a absolument toutes les fautes qu'on peut imaginer. La faute crapuleuse, le mensonge clair et net que j'ai dit qu'il faut tuer son ennemi. Je n'ai pas dit qu'il dit ça. J'ai dit que la leçon que nous donnait la victoire de Monsieur Netanyahou, c'est-à-dire la victoire de la droite israélienne en Israël, c'était que quand on tue son ennemi, on a plus de chances de gagner que quand on lui passe la main dans le dos. Et j'ai même ajouté, cessons de faire comme les libéraux, c'est-à-dire de croire que nos ennemis ont raison. Voilà, pourquoi j'insiste à ce point-là sur cette affaire? C'est tout simplement parce que, je vous le dis, je vous supplie de le comprendre, les journalistes français sont des menteurs qui sont payés pour vous mentir. Et par conséquent, il faut que vous sachiez une chose, quand vous lisez un journal, il y a 99 chances sur 100 pour que ce que vous lisez soit un mensonge. Par conséquent, il faut que vous soyez vigilant, que vous ayez l'esprit en éveil et le sens critique en marche tout le temps. Tout est faux. Les plus petits détails sont faux. Parce que les journalistes ne savent pas voir, la majorité des journalistes ne savent rien voir, ils ne comprennent pas ce qu'ils voient, ils ne savent pas écrire ce qu'ils comprennent. Et chose qui poursuit cet enchaînement dramatique, bien souvent, les gens qui lisent les journaux ne sont pas préparés à lire, ils n'ont pas appris à lire à l'école, on ne leur a pas appris à faire fonctionner leur sens critique, et par conséquent, ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Le peu qu'ils comprennent, ils le retiennent mal, et ils le racontent de travers. Donc, si vous avez un intermédiaire à partir du journal, ça devient une catastrophe, c'est n'importe quoi, et ça donne le résultat que j'ai évoqué il y a 15 jours, dans une émission qui a été malheureusement victime d'un problème technique, à propos de Monsieur Villeneuve. Monsieur Villeneuve a diffusé dans sa tranche horaire à la télévision une émission consacrée aux sectes, qui est une émission mensongère qui a été faite par des gens qui ne savent pas leur métier, qui racontent n'importe quoi. J'en voudrais une seule preuve, c'est qu'on a présenté, je le répète, une feuille d'informations confidentielles dont j'étais avec Philippe Randa, le rédacteur, et qui était une feuille d'informations confidentielles qui s'appelait Secret et Société, qui était une arme d'informations militantes contre la franc-maçonnerie et contre les sectes. On a présenté ça comme un document favorable aux sectes. Voilà. Donc là, il s'agit d'un mensonge catégorique, caractéristique d'une inversion pure et simple de la vérité. Eh bien, c'est ça tout le temps. Il faut que vous le sachiez en lisant les journaux. Je vous répète ce que je vous dis. Ne vous laissez pas faire. Quand un journal contient un mensonge, renvoyez-le en port dû et exigez le remboursement. Vous avez le droit de le faire exactement comme vous avez le droit d'aller reporter à votre épicier une boîte de petits pois dans laquelle vous avez trouvé, sous l'étiquette petits pois, des haricots verts ou un rat crevé. C'est un droit de consommateur. Comportez-vous avec les journaux comme un consommateur conscient et organisé. Voilà. Après, je continuerai, mais je voudrais saluer Bernard Anthony qui vient d'arriver dans ce studio. J'ai continué à parler après qu'il fût arrivé sans faire la moindre allusion pour le punir de son
retard. D'être en retard.
Bonsoir Bernard.
Bonsoir.
Alors, Bernard, vous le savez, vous le connaissez, il est, j'allais dire qu'il est journaliste un peu vrai, d'ailleurs.
Oui,
tu es
oui.
Journaliste puisque tu es le fondateur de Présent.
Pas journaliste menteur,
fondateur de Présent, pas journaliste menteur. Mais il est député européen, il est président de la Griffe, président du Centre Charlier, et président de Courant.
Quoi, enfin, non, ça va, arrêtons-nous là.
Et puis au téléphone, on a quelqu'un dont tu as peut-être entendu parler au cours de ta carrière, qui est Monsieur Gollnisch.
Voilà.
Bonsoir Monsieur le député.
Bonsoir, cher ami. Bonsoir Bernard. Nous sommes quittés il n'y a pas très longtemps.
Et oui,
nous avons déjeuné à Bruxelles, mais moi je suis resté au Parlement européen.
Mais lui a eu le courage de prendre le train pour venir à Paris.
Malgré un léger retard en gare de Bruxelles.
Alors, Bruno Gollnisch, combien de temps pouvez-vous rester avec nous? Je rappelle, Bruno, que vous êtes député européen aussi. Vous êtes, alors, on va pas énumérer les titres professionnels parce qu'on n'en sortirait pas. Bruno Gollnisch est avocat, il est professeur à la faculté de, ancien doyen de la faculté de Lyon. Et il est également, qu'est-ce qu'on peut dire encore?
Ben, je suis secrétaire général du Front National.
C'est ce que j'oubliais.
À mes heures perdues.
Il est secrétaire général du Front National, voilà. Alors, Bruno, combien de temps nous accordez-vous?
Je ne sais pas, 10 minutes, peut-être.
Une rare générosité. Alors, je voudrais m'adresser...
C'est vrai que c'est un peu malcommode parce que je suis dans une cabine téléphonique à la sortie de l'hémicycle. Mais mes collègues attendront.
Oui, laissez. Alors, je vous ai demandé de nous appeler ce soir parce que vous ne pouviez pas venir à l'émission. Et j'aimerais bien que... vous preniez la parole parce que vous avez été, sans doute aussi pour des raisons circonstancielles, vous avez été le premier à réagir à cette affaire de l'arrestation d'un journaliste dans des conditions que je préciserai un peu plus tard dans le détail. Vous avez été le premier à réagir, Bernard Anthony a réagi, Jean-Marie Le Pen a réagi, Bruno Maigret a réagi, tous les amis ont réagi, toute la presse National a réagi très gentiment. Les autres journaux, évidemment, pas pipé mot. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de pathétique dans l'éditorial de Martin Pelletier ce matin, qui se tourne vers les journalistes normaux, en quelque sorte, pour leur dire alors, qu'est-ce que vous allez faire? Et on a vraiment l'impression que c'est vox clamans in deserto.
Ouais.
Mais j'aimerais savoir ce qu'en pense l'homme politique, mais aussi ce qu'en pense l'avocat. Tout à l'heure, Maître Valerand Saint-Just viendra nous parler de la partie du droit dans cette affaire. Mais j'aimerais bien savoir ce que Bruno Gollnisch en pense en tant que à la fois homme politique et avocat de cette situation.
Je vais être très franc, mon cher Serge. Je ne suis pas un avocat pénaliste. Je suis spécialiste de droit international et vous êtes parmi les premières têtes de gibier de potence que je fréquente. Mais quand même, si j'ai réagi si vite, c'est vrai parce que j'ai été informé fortuitement en essayant de vous joindre par votre épouse et puis que j'ai été absolument indigné, évidemment, par ce traitement. Notre ami Jean-Yves Le Gallou, aux côtés duquel je me trouvais à l'instant à Bruxelles, me disait qu'il venait lui aussi d'écrire. Il n'a pas écrit au juge Tchalian, il a écrit à la présidente du tribunal, mais il a écrit pour demander si Madame Cassetta, je crois, c'est cette personne ancienne trésorière du RPR qui fuit systématiquement toutes les convocations du juge d'instruction, allait connaître le même sort. Et puis, nous venons déjà d'ailleurs de donner un petit retentissement au Parlement européen à votre mésaventure.
Parce que
nous avons eu deux débats. Nous avons eu deux débats, le premier sur le Maroc et le deuxième sur la Croatie. Le premier sur le Maroc, il y a quelques bonnes âmes qui sont hostiles à un traité avec le Maroc. Nous n'y sommes pas favorables, mais pour d'autres raisons. Mais qui mettent en avant les droits de l'homme, n'est-ce pas, au Maroc. Alors j'ai dit dans les termes les plus catégoriques que quand le juge Tchalian faisait arrêter M. Serge de Bekech pour un délit d'opinion, n'est-ce pas, et d'une façon particulièrement infamante, eh bien, nous ferions mieux de balayer devant notre porte plutôt que de donner des leçons dans ce domaine au roi du Maroc. Et il se trouve que, aussitôt après, ce qui était en débat, c'est la Croatie. Car figurez-vous que tout le monde aujourd'hui fait partie du Conseil de l'Europe, la Russie fait partie du Conseil de l'Europe, mais la Croatie a été refusée, et la Croatie a été refusée précisément parce que la presse n'y serait pas totalement libre.
Alors une notre chose pareille est-elle possible?
Rebelote, notre ami Jean-Yves Le Gallou a remis sur le tapis l'arrestation du journaliste de Bekech par le juge Tchalian. Alors, je ne sais pas si les oreilles du juge s'étendent jusqu'à Bruxelles, mais bien évidemment, il lira tout cela certainement dans le journal officiel des débats de ce Parlement, où la parole est libre malgré tout.
Alors, est-ce que le fait d'intervenir au Parlement sur un sujet de cette nature peut avoir d'autres effets que simplement d'alerter l'opinion. Je pose la question parce que j'insiste sur le fait que l'exposé, enfin le temps que je consacre à ma modeste personne, je le dis sans fausse modestie, vraiment, n'a pas d'autre objet que de montrer comment une situation est en train de se détériorer dans ce pays. Il est évident que je n'ai pas été l'objet de sévices, que mon cas n'est pas comparable à celui des centaines de journalistes qui, dans le monde entier, dans les dictatures totalitaires de l'Est, d'Asie, ont été torturés, assassinés, emprisonnés, séquestrés, etc. Bien sûr que non. Mais en France, ça fait quand même très très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et le plus frappant dans cette histoire, où j'ai pas été frappé, c'est le formidable silence de la presse, qui, non contente de ne pas parler de cette affaire, s'est jointe immédiatement à la meute judiciaire pour me dénoncer en truquant mes propos, en les coupant et en me prêtant des activités qui sont parfaitement mensongères.
Oui, et en truquant les faits aussi.
En truquant les faits,
parce que, n'est-ce pas, pour sa défense, je crois, le juge, enfin ce que le monde appelle les milieux judiciaires, dit que vous n'avez pas déféré à une convocation. Et alors là, évidemment, les Français se disent, bah, après tout, si on refuse une convocation du juge d'instruction, c'est pas absolument anormal que le juge d'instruction vous fasse venir chercher.
C'est pas du tout cela
qui s'est passé. Je suppose que vous l'avez expliqué.
Non, je ne l'ai pas encore expliqué parce que je voulais d'abord faire un portrait général de la situation.
Vous aviez reçu une convocation à un moment où vous étiez saisi de fatigue. À raison d'une maladie grave dont nous souhaitons tous un prompt rétablissement, je crois que c'est en bonne voie, mais qui génère des états de fatigue terrifiants en raison des traitements qu'elle requiert, et vous aviez préalablement, à l'audience du juge d'instruction, sollicité ce report. La greffière avait déclaré que je ne paraissais pas pouvoir faire de problème, et vous avez demandé de fournir un certificat médical, ce que vous avez fait, et ce que vous avez fait facilement, puisqu'il y a quantité de médecins et des plus hautes sommités qui peuvent, hélas, attester de votre état à ce moment-là. Ce sur quoi le juge vous a ordonné de passer une visite médicale à laquelle vous vous êtes prêté de bonne grâce chez le docteur Leport, dans le 16e
arrondissement,
ça. Nous ne donnerons pas son adresse, nous ne sommes pas assoiffés de vengeance, nous sommes seulement assoiffés de justice. Non. Chez le docteur Leport, chez lequel personnellement je tiens à dire que j'éviterai de me faire soigner, bien évidemment.
C'est quelqu'un qui m'a guéri en 10 minutes d'une maladie que j'avais depuis un an.
Voilà, c'est ça. Oui, c'est peut-être miraculeux d'une certaine façon. Qui a dû certifier simplement que votre état aujourd'hui ne vous empêchait pas de répondre aux questions du juge. La procédure normale eût été pour le juge de vous reconvoquer, pas de vous faire arrêter le matin devant votre épouse, de vous faire menotter, de vous emmener au poste, de vous retenir toute la journée, de vous faire dévêtir totalement, et tout cela simplement pour qu'il vous notifie une inculpation. Une inculpation, paraît-il, à la requête du procureur de la République. Mais ce qui est très curieux, c'est que l'agence France Presse dit que les poursuites contre vous ont été entamées à la demande du ministre de l'Intérieur. Je me demande ce que vient faire le ministre de l'Intérieur en matière de police de la pensée. Et l'AFP dit même le ministre de l'Intérieur, Michel Debré. Alors il faut dire à l'AFP que c'est pas Monsieur Michel Debré qui est ministre de l'Intérieur.
On l'a dit.
C'est son fils Jean-Louis Debré, mais il est vrai qu'on s'y perd un peu dans ces dynasties.
On l'a dit, cher Bruno Gueldi. J'ai fait remarquer d'ailleurs que c'était tout à fait significatif de la façon dont travaillent ces, ouvrez les guillemets, journalistes, fermez les guillemets. La presse, qui est en quelque sorte faite d'une vaste broderie chamarrée sur la trame de l'AFP, des dépêches AFP, ne fait en fait qu'ajouter des contre-vérités aux erreurs et des mensonges aux approximations.
Ah oui, à ce sujet, c'est un tout autre sujet, mais je vous entendais au téléphone, juste avant que nous soyons mis en relation, parler des désinformations du sieur Villeneuve. J'ajoute une petite information à l'intention de vos auditeurs, c'est que le Front National belge, qui a été mis en cause dans l'émission de désinformation de M. Villeneuve, lui a adressé un droit de réponse dont celui-ci, bien évidemment, s'est gardé de faire état. Tout ceci se plaidera devant les tribunaux.
Le principe de la télévision commerciale ou la télévision étatique est de ne pas diffuser de droits de réponse. Ils ont une fois pour toutes décidé de se mettre en contravention avec la loi. Et ils le pratiquent tout à fait couramment.
Notre ami Bernard le sait bien, que je tiens à saluer tout particulièrement ici, puisque lui, il lui a fallu plusieurs années, je crois, de combat judiciaire pour parvenir à remporter cette première grande victoire d'un droit de réponse télévisuel de quelques dizaines de secondes pour les diffamations dont il avait été l'objet.
Tout à fait.
Alors, Bruno Gollnisch, je crois que... Bon, vous avez envoyé une lettre au juge que je ne citerai pas à ce micro parce que...
C'est le juge Chalian, je crois.
C'est le juge Chalian. Une lettre que je ne lirai pas à ce micro parce qu'on peut la lire. C'est quelque chose qui doit être lu, médité. On peut la lire dans Présent, on peut la lire dans National Hebdo. Et je crois qu'elle mérite vraiment d'être lue parce qu'elle met très très bien les choses au point. Bernard Anthony d'ailleurs aussi a envoyé une lettre. Je crois que ce juge a reçu beaucoup de correspondances.
J'espère qu'il va en recevoir. Il faut donner son adresse pour ceux qui veulent, dans les limites naturellement autorisées par la loi, faire connaître leurs sentiments à ce magistrat. Il s'agit de Monsieur le juge Chalian au Palais de Justice de Paris. Je dis bien dans les limites évidemment autorisées par la loi. On peut écrire au juge, on peut écrire aussi au procureur de la République, puisque c'est paraît-il le procureur de la République qui poursuit. Je ne sais pas s'il poursuit sur ordre d'un ministre, à la demande d'une de ces associations qui font profession de combattre tous les racismes, sauf bien sûr le racisme anti-français, ou de sa propre initiative, mais je suis sûr que le juge ou le procureur font un bon usage de votre correspondance.
Eh bien, je pense que ça les intéressera, en tout cas ça les occupera 5 minutes. Je crois savoir que votre lettre, en tout cas, n'a pas été reçue avec toute la sympathie qu'elle méritait, étant donné...
Mais c'est-à-dire que je l'ai envoyé en télécopie. Je l'ai envoyé en télécopie, mais comme je suis un peu vieux jeu, je considère que la télécopie, ça satisfait le besoin d'urgence, mais pas celui de courtoisie. Par conséquent, le lendemain, je la lui ai fait porter par un porteur, justement, qui, assez naïvement, en ignorant le contenu, mais dont il n'avait pas à connaître, s'est présenté au cabinet du juge pour remettre cette lettre. Et on lui a il est tombé sur une personne, sur une dame, au cabinet du juge Chalian, qui lui a demandé « Mais qu'est-ce que c'est ?» Il a dit « C'est une lettre de Monsieur Gollnisch ». Aussitôt le visage s'est un peu renfrogné et la dame a disparu pendant quelques minutes. Puis elle est revenue, paraît-il, elle était encore moins amène qu'avant. Et elle a dit, eh bien, ça y est, oui, laissez votre lettre là. Mais le malheureux, par la force de l'habitude, exigeait un reçu qu'on lui a obstinément refusé. Enfin voilà, je suis absolument sûr maintenant, en tout cas, cette correspondance est bien parvenue au juge, et par conséquent, je suis pleinement rassuré.
Merci Bruno Gollnisch.
Au revoir. J'en profite pour te dire qu'il y a une réunion de groupe à 10h du matin.
J'y serai.
Voilà, c'est un message confidentiel. Bonsoir Bruno Gollnisch, et merci beaucoup.
Bonsoir. Alors,
je précise que si Bernard Anthony est venu ce soir nous retrouver, ça n'est pas vraiment parce qu'il est plus courageux que Bruno Gollnisch, c'est tout simplement parce que...
Je suis à Versailles tout à l'heure, dans une réunion organisée par le comité Clovis des Yvelines, réunion qui a lieu à 20h30 à l'hôtel de ville de Versailles, salle Cadoré, avec la projection du film Clovis.
Alors, je précise que cette émission durera 3 heures exceptionnellement, et que la deuxième partie de l'émission sera consacrée à répondre aux questions des auditeurs. Donc n'hésitez pas à envoyer des questions sur tous les sujets qui vous paraissent susceptibles d'être traités ce soir, et je tenterai, avec mes invités qui seront là, d'y répondre dans la deuxième partie de l'émission. On peut déjà donner la parole à une auditrice qui nous dit « Serge de Beketch est un vendu au FN ». Je dois dire que si je suis vendu, je ne suis pas vendu très cher. Vous êtes des gens dangereux. Merci, car ce soir, vous avez ouvert les yeux aux gens qui vous écoutent. Vous mentez, nous sommes en démocratie. Eh bien, écoutez, madame, si ce système vous convient, Moi, je ne serais pas plus démocrate que la démocrate. Si vous êtes contente, si vous trouvez que c'est bien, tant mieux, continuez à voter pour les gens qui font, par exemple, ce que nous dit présent ce soir à propos de Monsieur Tibéri. Si Maître de Saint-Just veut bien me communiquer le journal qu'il est en train de dévorer, au lieu de m'écouter... Voilà. Par exemple, dans la démocratie, madame, dans votre démocratie, eh bien, voilà ce qu'on apprend sous la signature de Georges-Paul Wagner, qui n'est pas un fanatique, que c'est un avocat de grand talent, comme Maître de Saint-Just, et c'est également un collaborateur de grand talent de présent. Alors, Maître de Saint-Just nous apprend que le juge Alphen fait ce qu'il peut pour mettre la clarté dans les affaires de l'Office public d'aménagement et de construction, dont le sigle est opaque. Vous voyez ? Donc, à partir du moment où vous avez une société d'économie mixte qui s'appelle OPAC, vous pouvez vous attendre au pire. Et en l'occurrence, il semblerait que cette société que préside Jean Tibéri, maire de Paris, a quelques difficultés. Mais, nous dit Georges-Paul Wagner, comparant la marge de l'instruction de ce côté-là avec ce qu'elle a été pour Serge de Bekech, Jean-Yves Le Gallou, dans un communiqué, la décrit lente, prudente, courtoise. Quand pour des délits d'opinion reprochés à la véritable opposition, elle se montre rapide, brutale et humiliante. Donc il est bien clair que dans la démocratie, madame, que vous saluez et que vous appelez de vos voeux, vous ne risquez rien, puisque cette démocratie, comme vous dites, met en prison les gens dangereux, comme vous dites, dans mon genre, qui sont tout simplement des citoyens qui veulent dire la vérité. Tandis que ceux qui volent dans les poches de leurs clients sont des élus. Et d'ailleurs, je dois vous raconter que, au cours de la fouille qui m'a été imposée, tout nu, dans une cellule pas très bien chauffée, j'ai demandé aux policiers qui m'inspectaient à un endroit de mon intimité particulièrement intime, si c'était à force de recevoir des députés socialistes qui croyaient qu'on pouvait cacher quelque chose dans un endroit pareil. Il n'a pas jugé bon de me répondre. Voilà, cette démocratie, voilà comment elle fonctionne. Il y a un énorme scandale qui affecte une société d'HLM, une société immobilière, enfin une société d'immobilier parisien, et le juge, le magistrat instructeur, n'arrive pas à instruire parce que tout simplement les personnalités qui sont en cause dans cette affaire refusent de déférer à ses convocations. Et moi j'attends avec beaucoup de curiosité le jour où le juge Alphen se comportera comme à l'endroit des personnalités politiques mises en cause, comme le juge Chalian s'est comporté à l'endroit d'un journaliste. C'est tout simple. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Je le résume à la demande de plusieurs auditeurs. Donc, je le rappelle, le 23 avril, j'ai été convoqué au commissariat du 10e, Faubourg Saint-Denis, pour être entendu sur un article publié par le Libre Journal du 27 octobre 1995 à propos du sport olympique et de la médiatisation des athlètes noirs comme facteur de métissage social. L'inspecteur Rapace m'a signifié une convocation par le juge Chalian pour le 9 mai à 16h. Le 9 mai à 11h, j'ai téléphoné au juge pour lui indiquer que j'étais souffrant et que je souhaitais un report de la convocation. J'ai joint un certificat détaillé et précis, établi par le docteur Plantet, ex-interne des hôpitaux de Paris, ex-interne des hôpitaux de Marseille, diplômé de la Mayo Clinic, membre de l'Académie de médecine des États-Unis, membre du Collegium Psychotherapeuticum. J'ai retéléphoné à 14h pour avoir confirmation du report. La greffière m'a confirmé que le juge avait pris note de mon indisposition. Le 23 mai, sans autre avertissement, j'ai été convoqué par le docteur Leport, qui m'a examiné pendant 10 minutes. À l'issue de cet examen, ce médecin de quartier a remis au juge Chalian un rapport concluant à la nullité des conclusions et diagnostics du docteur Plantet, mais aussi du docteur Kakoub, du service de médecine interne et allergologie de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière, du docteur Gabard, du service d'hématopathologie de La Pitié-Salpêtrière, du docteur Stoppa, du service d'hématocancérologie de l'Institut Paul-Calmette. Autrement dit, le docteur Leport m'a guéri en 10 minutes, ce que je disais tout à l'heure, d'une maladie que j'ai depuis un an. Je ne peux que l'en remercier, et ça grâce aux bons soins du juge Chalian, on ne peut pas être plus aimable. Voilà ce qui s'est passé. Et à la suite de ce rapport, j'ai été donc arrêté à mon domicile à 8h du matin le 30 mai par deux policiers du commissariat PJ du 19e. J'ai été conduit menotté au dépôt, enfermé en cellule, fouillé à corps, enchaîné, présenté au juge Chalian qui m'a signifié mon inculpation et qui m'a remis en liberté. Voilà exactement ce qui s'est passé dans la démocratie, madame, que vous saluez de vos compliments. Alors, Bernard Anthony, peut-être un commentaire, une réflexion ?
Oui, alors j'ai écrit dans... Enfin, plutôt présent à publier la lettre que j'ai envoyée au juge Chalian, complétant peut-être celle de Bruno Gollnisch. Les auditeurs la trouveront dans présent, parce que la première contre des informations aux mensonges de l'ensemble de la presse venimeuse qui nous combat, c'est de lire présent. Et j'ai tout simplement exprimé au juge Tchadian qu'en croyant humilié, vieux camarade, il t'avait grandi. Et que ce faisant, eh bien, par les procédés utilisés, il t'avait rapproché de celui qui jugera les juges. Je pense que le juge Chalian n'a pas, hélas, écouté le bel enregistrement produit par la Serbe des poèmes de Brasillac par Pierre Freinet, mais je crois que je lui enverrai prochainement le jugement des juges, car eux aussi seront jugés à leur juste mesure. Donc, cette réaction, et je pense à cette dame qui, dont je trouve que nous sommes en démocratie, je voudrais lui demander comment il se fait donc que ce traitement te soit infligé, alors que j'interroge en vain dans ma région de Midi-Pyrénées la presse, les notables, pour savoir par exemple pourquoi on étouffe l'affaire de cette jeune fille qui le 5 mai au matin à Figeac, à 5 heures du matin, devant une boulangerie, a été lynchée. Laissée pour morte, elle a été ensuite transportée à l'hôpital de Figeac, transportée à l'hôpital Purpan à Toulouse, et depuis, c'est le blackout. Nous ne pouvons rien savoir, mais ce que nous savons, ce que le boulanger sait, ce que tout le monde sait à Figeac, c'est qu'elle a été lynchée par une douzaine de beurs. Alors est-ce que mon propos est raciste? Elle a été lynchée par une demi-douzaine de voyous au type nord-africain, par une douzaine de salopards racistes, et alors ce racisme-là, madame, ça ne vous indigne pas? C'est ce racisme-là qui sévit tous les jours, car tous les jours, dans ce pays, dont il y a des bandes racistes qui tuent, qui pillent, qui violent, mais cela n'est pas l'objet de la répression donc antiraciste qui devrait être. La répression s'exerce sur Serge de Bekech, et là je voudrais dire aux auditeurs, mais combien de temps ce vieux peuple français va-t-il supporter d'être comme cela, injurié, avili, humilié, nous ne l'acceptons plus. Il faut bien sûr, Saint-Just le dira tout à l'heure, se battre devant les tribunaux, et il va de soi que la griffe donc soutient pleinement Serge de Bekech, membre de son bureau, parce qu'enfin tout de même on ne peut plus rien écrire alors, donc on peut tout lire dans une certaine presse, tout lire, on fait de moqueries contre les franchouillards, contre les bitrus, contre les bofs, tout est possible, l'ignominie de Charlie Hebdo, enfin ça n'a pas indigné. Moi je n'ai pas appris que les journalistes de Charlie Hebdo ont été traînés par la police. Enfin, ces journalistes qui présentent, pardonnez-moi chers auditeurs de dire cela, un dessin dans lequel on voit déféquer dans les bénitiers, avortés sur les autels. On a vu dans Charlie Hebdo donc les dessins des moines assassinés en Algérie. Charlie Hebdo ne cesse d'en faire des gorges chaudes. C'était bien marrant d'assassiner ces moines et de leur donner des noms que je ne répète pas ici. Je n'ai pas amené parce qu'effectivement, je ne viens pas de chez moi, j'ai à peine quitté le Parlement européen, mais enfin que les voyous, que les salopards immondes de Charlie Hebdo, qui crachent sur tout ce que notre société est respectable, qui crachent absolument sur tout, eh bien eux, ils sont traités avec considération. En tout cas, j'avertis une chose, c'est que je n'accepterai pas qu'un journaliste de... Enfin, un journaliste, non, tout de même, il y a les journalistes menteurs, puis il y a les gens de Charlie Hebdo. Moi, je ne les accepterai plus dans une conférence de presse. L'année dernière, avec stupéfaction, je me suis aperçu que l'un d'entre eux avait osé fréquenter le palais des congrès de Toulon pendant l'université d'été. Il va de soi que lorsque ces gens-là font les dessins qu'ils font sur les moines assassinés et lorsqu'ils donc font les commentaires que je disais tout à l'heure, et que la décence, je dis bien la décence, je ne peux pas lire de telles choses. J'en suis incapable, m'interdit de rapporter ici. Alors donc c'est Serge de Bekech que l'on arrête pour tout simplement une petite humeur, parce qu'enfin une petite humeur antiraciste, parce qu'on en a assez aussi de certains qui se croient tout permis parce qu'ils sont d'une race différente de la nôtre. Alors le militant antiraciste que je suis dit mobilisez-vous, et je remercie le juge Chalian parce qu'il a peut-être déclenché ça, j'en suis sûr. En tout cas il nous a donné, peut-être en manquions-nous dans ce printemps un peu fatigant, cher Serge, pour toi comme pour moi, il nous a donné de l'énergie, il nous guérit, le juge Chalian, il t'a honoré, il t'a grandi, et quant à moi il me fait du bien.
Alors justement, puisque Bruno, tu en parles,
Bernard
tu Bruno, en parles,
la même chose.
Entre les Bruno et les Bernard, on finit par s'y perdre. Qu'est-ce que disait ce papier, cet article? Est-ce que vraiment il était aussi terrifiant que ça? Est-ce qu'il était une espèce de discours hitlérien qui aurait pu soulever les foules au point de les jeter dans la rue avec des couteaux d'égorgeurs pour éliminer tout ce qui n'est pas blanc, blond et aux yeux bleus? Non. C'est un article qui disait tout simplement la chose suivante. On constate qu'il y a à la télévision des sports qui sont médiatisés très très fortement, et des sports qui ne le sont pas. Et ce qu'on constate en deuxième stade, c'est le cas de le dire, c'est que il y a de très nombreuses personnes de couleur dans les sports qui sont fortement médiatisées et que les sports qui ne sont pas du tout médiatisés sont curieusement des sports dans lesquels les gens de couleur ne paraissent pratiquement pas. La conclusion que tirait l'auteur de cet article, c'est que le lobby prétendument antiraciste utilise cette arme du sport médiatique, pour métisser les esprits, en quelque sorte, pour convaincre le bon gogo qui regarde un spectacle télévisé que, véritablement, s'il existe une race supérieure, comme certains ont pu le penser faussement il y a quelques dizaines d'années, cette race supérieure n'est pas une race nordique, mais plutôt une race du sud de la Méditerranée. La meilleure preuve, d'ailleurs, c'est qu'elle remporte des concours dans toutes les disciplines sportives. Et donc, ça expliquerait ce matraquage. Et l'auteur de l'article expliquait, par exemple, que au nom de cette stratégie, en quelque sorte, de bourrage de crâne, eh bien, on invente des champions, mais on invente aussi des informations. Par exemple, on invente l'histoire selon laquelle Adolf Hitler, foudrage de la victoire d'un noir aux 100 mètres aux Jeux Olympiques de Berlin, aurait quitté le stade en pestant. C'est absolument faux. Hitler n'était pas dans le stade au moment de la victoire de Jesse Owens.
Oui, par conséquent, il a pas eu besoin
de sortir.
Il était suffisamment fou, voilà. Raciste, alors, pour cela que
ça, c'est rajouter. Voilà le motif de la poursuite. Je dois dire que c'est une poursuite qui présente absolument toutes les caractéristiques de la justice, passez-moi l'expression, stalinienne. Il y a un point de détail qui le montre. C'est que, vous savez que le vieux principe des staliniens, c'est de faire poursuivre et de faire condamner les mauvais membres du parti, les vipères lubriques, par leurs plus proches. Par exemple, je rappelle que c'était Garodi qui avait été le procureur de différents procès qui avaient eu lieu au sein du Parti communiste en France, et il avait été le procureur de ses meilleurs amis. Et c'est le meilleur ami de Garodi au parti qui a liquidé, en quelque sorte, Garodi du Parti communiste quand le parti stalinien a décidé de se défaire de ce vieux stalinien qui ne pouvait plus servir. Alors je dirais pas que le juge Tchalian est mon meilleur ami, c'est pas du tout ça, je le connais pas du tout, je ne l'ai jamais autant vu que le jour où j'ai comparu devant lui avec les menottes. Mais je dirais qu'il y a quand même un curieux cousinage entre nous. C'est que le juge Tchalian, je crois pas me tromper en le disant, appartient au noble peuple arménien. En tout cas, plonge ses racines dans le noble peuple arménien, qui est un peuple qui a été particulièrement victime du racisme turc et qui a été particulièrement victime de la sauvagerie de certains musulmans. Et c'est très curieux de voir que le combat antiraciste, ou prétendument antiraciste, qui veut interdire la vérité historique sur les massacres et sur les violences de certains peuples, ce combat est conduit par des gens qui sont les descendants des victimes de ces peuples. Moi, je trouve quand même extraordinaire qu'un descendant de la grande famille des Arméniens vienne dire qu'on n'a pas le droit de dire que dans certains cas, les Arabes et les musulmans se sont conduits comme des sauvages. Je trouve ça surprenant, parce que si quelqu'un a pu éprouver cette vérité historique, c'est bien eux. Et curieusement, je ne sais pas si c'est un parent, mais un des principaux historiens du génocide arménien s'appelle Monsieur Tchalian. Il se trouve que, de très lointaine origine, moi je suis hongrois, et les hongrois, comme les arméniens, ont eu oui, tu savais pas ça, de très lointaine origine. Les hongrois, oui, russe, la famille est russe, mais la famille a des racines hongroises très lointaines. Et les hongrois ont également connu les bonheurs de la fréquentation du peuple turc. Je sais pas, c'est pas la peine peut-être qu'on rentre dans les détails. Ça s'est assez mal passé, et c'est l'origine d'ailleurs de la russification des Bekech, puisqu'ils ont quitté la Hongrie pour se réfugier en Russie à cette époque-là. Donc, on est aussi, je fais aussi partie des gens qui, dans leur histoire familiale, ont éprouvé un petit peu, disons, les avantages de la société multiraciale, comme d'ailleurs les pieds noirs, par exemple. Je dois dire que je suis très étonné de voir qu'il se trouve des gens qui ont ça dans leur gène, en quelque sorte, qui ont appris cette souffrance par tradition familiale et qui acceptent de participer à ce combat bizarre de l'imposture antiraciste. Voilà. Alors, cet article, bien sûr, je reviens là-dessus. Cet article et cette affaire, c'est pas le cas Beckett, ça n'a aucun intérêt, ça. Ce qui est important, c'est la question, la généralisation possible. Comme le dit Madiran, Odie Tibi, Kras Tibi. Aujourd'hui, c'est mon tour, demain, ça sera le tien. Et il est évident que cette méthode qui est destinée à humilier, à impressionner, va être généralisée, je pense. Alors là, je me tourne vers Maître de Saint-Just, qui est avocat, et je voudrais lui demander s'il pense d'abord que ces méthodes-là sont des méthodes normales. Est-ce qu'il est normal qu'un juge d'instruction fasse déférer devant lui, pour un délit de cette nature, et dans ces conditions-là, quelqu'un pour l'inculper ?
Il est normal qu'un juge d'instruction veuille que quelqu'un qu'il veut mettre en examen vienne le voir un jour ou l'autre. Mais la façon dont tu as été traité, qu'un journaliste a été traité, je ne sais pas, et je crois qu'il faut remonter à la dernière période du Second Empire, peut-être pour retrouver cela. Depuis très longtemps, ça ne s'est pas vu en France. La loi d'ailleurs l'interdit, la façon dont tu as été traité. La loi dit, par exemple, que les fouilles sont permises quand elles sont nécessaires et qu'elles doivent toujours être pratiquées dans un souci de la dignité de la personne humaine. Ça n'a manifestement pas été le cas. Et en plus, la fouille était totalement inutile. Et je crois donc qu'il s'agit, de la part de ceux qui l'ont pratiquée ou de ceux qui l'ont ordonnée, cette fouille, de ce qu'on appelle les violences illégitimes. Ça a été une violence à ton égard qui n'est pas légitime et qui n'est donc pas permise. Et c'est sanctionné par la loi pénale. Donc, il y a très longtemps qu'on n'a pas vu cela, et puis en analysant bien ce qui était arrivé, je crois pouvoir dire que ça n'était pas légal. Et comme la loi des textes recommande de ne pas les mettre quand ça n'est pas nécessaire. Manifestement, ça n'était pas nécessaire. Tout ce cinéma... Pardonne-moi le terme, tu l'as peut-être pas ressenti comme une séance de cinéma.
Moi, j'ai ressenti comme une gigantesque
mise en scène,
oui. Qui était destinée à humilier. Ça,
voilà,
c'est pas
à humilier.
Oui. Je précise qu'un des fonctionnaires du dépôt est venu me voir discrètement. Il m'a dit, vous savez, aujourd'hui, ce matin, on a 25 clients. Vous êtes le seul Gaulois et vous êtes le seul qu'on nous a dit de fouiller de cette façon-là.
C'est le point le plus extraordinaire de cette affaire d'ailleurs, parce que à mon avis la fouille à corps de cette façon-là ne se pratique qu'extrêmement rarement, hein, et peu doivent l'accepter, et là ça a été spécialement prévu pour toi, alors que tu n'étais poursuivi, tu n'es recherché que dans le cadre d'un délit d'opinion pour avoir écrit un article. Alors, pour les criminels ou les voleurs ou les trafiquants de drogue, qu'est-ce qu'on doit leur faire subir à ce moment-là si on fait subir ça à un journaliste ? Ça me paraît tout à fait illégal.
J'ajoute quand même que, en plus, cette convocation était destinée uniquement à me signifier une inculpation, ce qui aurait pu être aussi bien fait par courrier ou dans n'importe quelle circonstance. Il n'était pas du tout utile de venir me chercher à mon domicile et de me menotter, de m'enchaîner.
Je voudrais rappeler ici que un des membres de l'orchestre, dont on parlera que d'ailleurs Jean-Marie Le Chevalier, sur lequel Jean-Marie Le Chevalier vient de remporter une magnifique victoire à Toulon, Nick Tamer, un des membres dont de Nick Tamer, au Le Doulon, dont ne s'est même pas présenté au procès qui lui était intenté pour détention d'armes et qu'il a obtenu une mansuétude largement supérieure à celle du moindre militant de droite qui aurait été trouvé en possession d'un Opinel dans sa poche.
Hein. Oui,
donc je tiens que les auditeurs entendent de cela.
Oui.
Donc un voyou trafiquant, donc de Nick Tamer, étant donc accusé de détention d'armes absolument prohibées, et ça n'était pas des petits canifs, donc ne se présente lui même pas au procès.
C'était un revolver, hein, Smith & Wesson avec
Smith
une croche de combat.
Absolument.
Donc, et qui était sa propriété, il
voilà,
l'a connu,
voilà.
Et il était la perquisition. Qui avait mis à jour cette arme avait été effectuée à son domicile parce que on savait qu'il hébergeait à son domicile un dangereux criminel qui était recherché. Donc, il y avait toutes les raisons, là, vraiment de prendre des précautions et de mettre ce prévenu dans une situation où il ne pouvait pas faire usage des violences dont il était coutumier. Car c'est pas la première fois que les gens de NTM
alors, se livrent à ce genre de choses. Alors, je crois aussi que toi, Tommy, permets-moi de te le dire quand même en toute amitié, tu as commis une grave imprudence. Et d'ailleurs, c'est injuste aussi, et moi aussi. Parce qu'on a pris l'habitude, par exemple, de convoquer des conférences de presse, parce qu'on a parlé des journalistes, mais tu peux très bien être aussi un donneur de conférences de presse. Et il se trouve que nous n'avons pas l'habitude de donner des conférences de presse en cagoule, dans le maquis, avec des Kalachnikovs, avec des lance-roquettes anti-chars, avec des M16 américaines, et je crois que c'est un tort. Parce que si, effectivement, nous donnions des conférences de presse comme cela, avec 600 militants encagoulés, armés, etc., que ferait le juge Chalian? Il recevrait du ministère de l'Intérieur, ou bien donc, du ministère de la Justice, des ordres.
L'ordre d'agir avec circonspection.
Avec circonspection. Alors, chère madame, qui trouvait que nous sommes en démocratie, enfin, cette démocratie dans laquelle on exige des citoyens d'aller déclarer les pétoires de leur grand-père, de la guerre de 14. On interdit désormais aux honnêtes personnes d'être armées pour pouvoir se défendre. Mais enfin, nous sommes dans ce pays où donc je parade, et l'on a vu l'autre jour à la télévision, enfin après un reportage où l'on montrait, les auditeurs s'en souviennent, les différentes familles de l'autonomisme corse, comme si c'était des familles très respectables, qui avaient là donc des graphiques sur les créations, etc. On a vu les encagoulés dont je parle, et qu'a déclaré M. Toubon ensuite. On l'interrogeait, mais ah, je vous assure, le dialogue est entamé, le dialogue doit se poursuivre, et je crois le respect mutuel, etc. Et on a vu les voyous de Corse, qui sont des violeurs, qui sont des voleurs, qui sont des trafiquants d'armes, qui sont de tout ça, donc dire, mais attention, si le gouvernement n'y va pas, donc ne fait pas attention, nous on va leur tirer dessus. Et ça, le juge Chalian, je ne sais pas s'il m'écoute en ce moment, ça ne préoccupe pas.
Eh ben, cela est tout à fait normal. Dossier, mais
il n'est pas chargé du dossier, mais
ça ne préoccupe aucun magistrat.
S'il y a des magistrats qui les écoutent en ce moment, un peu d'élégance tout de même, oser faire ce qu'on fait à Serge de Bekech, alors que parade les assassins corses, avec la complicité du ministère de l'Intérieur, avec la complicité du ministère de la Justice, parce que toute la presse l'a relevé, cela, et que je sache donc que le gouvernement ne s'en émeut pas, c'est quelque chose de particulièrement consternant.
Alors, une auditrice pose une question qui est un peu en dehors, mais enfin qui est au cœur du débat d'ailleurs. Elle demande si Jean-Yves Le Gallou, qui avait été frappé par M. Balkany à la télévision, a porté plainte. Et elle ajoute d'ailleurs Batchik, et moi je lui réponds Batchik Genem. Voilà. Ça, c'est un code secret, ça.
C'est pour initier, je ne rentre pas dans... Alors, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre, il faut poser la question à Jean-Yves Le Gallou, je ne peux pas répondre à sa place.
En tout cas, on peut pas dire que cette...
Je lui poserai la question dès demain matin.
Et fait grand bruit.
Oui, tout ce qu'on peut dire, c'est que la Griffe, par exemple, dépose assez souvent plainte, par exemple, contre les journalistes de Charlie Hebdo ou contre des journalistes d'autres journaux tout aussi dégueulasses, et que jamais ces journalistes, qui auraient fait 10 fois pire, qui ont fait 10 fois pire que ce qu'aurait fait ton auteur... ne sont inquiétés et ne sont traités comme toi tu as été traité. C'est particulièrement significatif.
Moi, je crois que il faut, si on veut tirer les conclusions de cette affaire, de cette petite affaire, il y a deux, comme toujours, deux genres de conclusions. Il y a des conclusions négatives, on peut en tirer une leçon négative et on peut en tirer une leçon positive. La leçon négative, c'est d'abord qu'à l'évidence, on est entré dans un processus de renforcement très très violent de la répression. Parce que ça, c'est un début, ça ira plus loin, ça ira plus fort, c'est clair. Jean Madiran dit, et en général il est assez clairvoyant dans ses affaires, que ça finira par des exécutions de journalistes au coin d'un couloir. Tout simplement. C'est tout à fait possible, on peut très bien imaginer ce genre de scénario. Il est évident d'ailleurs que, à l'heure actuelle, un individu qui ferait usage d'une arme contre quelqu'un de chez nous n'aurait pas à subir les foudres de la justice trop brutalement et trop bruyamment. C'est tout à fait certain. Tout le message de la presse de gauche consiste à marteler cette certitude pour le cas où ça déterminerait un cinglé à faire quelque chose. On me dit, par exemple, qu'en ce moment même, une radio périphérique, une radio, pardon, voisine de la bande FN est en train, FM, pardon, est en train d'assassiner Radio Courtoisie et votre serviteur. Bon, il s'agit là d'appels au meurtre. Quand, par exemple, on me reproche dans Le Monde ou dans Libération d'avoir tenu des propos en disant qu'il fallait tuer son ennemi, qui était un propos figuré, bien entendu, un auditeur rappelle que personne n'avait protesté quand le meilleur avait affiché en première page le slogan suivant, enfin la question, la prétendue question suivante, faut-il brûler Le Pen, et une autre fois, faut-il abattre Le Pen. Ça, c'est des questions qu'on a parfaitement le droit de poser.
Mais c'était dans le très digne Nouvel Observateur que Marguerite Duras disait « je rêve d'assassiner Le Pen ». Mais cela ne soulevait évidemment aucune indignation, et là, il ne s'agissait pas de tuer l'adversaire au sens politique du mot, comme on en parle lorsqu'on joue aux échecs, c'est-à-dire échecs et maths. Il s'agissait bien d'autre chose, il s'agissait plutôt de maths 49.
Alors, donc il est clair qu'il va y avoir un renforcement de la répression, ça c'est certain, et évidemment, c'est pour ça que la chose est intéressante, évidemment pour se donner les apparences de l'équilibre et de la justice, la justice qui va frapper les prétendus racistes de droite va également trouver de l'autre côté des gens à frapper, et il faut s'attendre à ce que dans certaines presses confessionnelles, dans certaines presses ultra-gauchistes, il y a également des sanctions du même genre pour apparaître, pour que la justice apparaisse comme parfaitement impartiale dans ses affaires. Ça, c'est tout à fait certain. Ils ne s'en rendent pas compte, ils s'en rendent compte trop tard, ces gens-là. Quand ils seront traités comme des journalistes d'extrême droite, ils comprendront qu'ils auraient mieux fait de se réveiller plus tôt. La deuxième conclusion négative, c'est que il est clair que de plus en plus, les libertés individuelles deviennent maintenant un luxe, et que, étant donné que cette affaire, modeste affaire, n'a suscité aucune réaction dans la grande presse, pas la moindre marque de solidarité de qui que ce soit de la grande presse.
Au contraire,
eh bien, les magistrats qui voudront utiliser l'arme de la détention préventive, de l'arrestation, de la séquestration, etc., ne sentent bien qu'ils ne vont plus se gêner. Ils sont parfaitement assurés du soutien et du silence de la presse.
Je crois qu'il y a aussi une interprétation politique de la chose. Elle n'est que seconde, mais elle est importante. À savoir que dans les milieux gouvernementaux, même si on lance en ce moment la poudre aux yeux de la diminution des impôts, on sait que l'on va échouer. Et dans les loges qui réunissent, ou dans les clubs qui réunissent les hommes politiques de la majorité et de l'opposition, on se prépare à la nécessaire unité face au Front National. Parce qu'on estime que finalement, si on laissait faire les choses, le Front National viendrait au pouvoir. Ils en sont persuadés parce que sur tous les grands dossiers de la société, nous avons une majorité de l'opinion avec nous. Alors donc, il faut artificiellement essayer de trouver des éléments qui pourraient indigner cette opinion, et par ailleurs, il faut que le RPR et l'UDF en fassent davantage dans l'antifascisme, dans l'antiracisme, ils en remettent, somme toute, par rapport aux staliniens, pour préparer, au fond, l'unité de la République, comme ils disent, face au Front National. Voilà aussi ce que cela signifie. Nous avons le droit, vous avez le droit de vous unir à nous, parce que nous sommes les mêmes, nous sommes plus antiracistes et plus antifascistes que vous. Voilà le message que veulent délivrer les Debré et les Toubon.
Maître Saint-Just, non.
Et pour prendre des mesures coercitives, comme celles qui t'ont été appliquées, mais beaucoup plus importantes, à une beaucoup plus grande échelle, contre d'autres journalistes, contre des hommes politiques, notamment ceux du Front National, c'est ce qui nous pend au nez. Il n'y a aucun problème, mais nous n'en avons pas peur.
Ça conduit à la troisième conclusion que je crois qu'on peut tirer de ce genre d'affaires, c'est que est en train de se mettre en place un système, une méthodologie kagibiste. Mais kagibiste douce.
C'est-à-dire le ministre de l'Intérieur, personnellement, qui te dénonce dans cette affaire-là, c'est que ton journal a été lu au préalable par une cellule spécialisée de la rue des Saussets.
Alors là,
c'est
on
pas
peut...
la quatrième section du parquet qui est spécialisée, ou des magistrats. Non, ce sont des fonctionnaires de police qui ont lu, qui ont découpé et qui ont envoyé ça. Et c'est le ministre de l'Intérieur qui dépose plainte lui-même.
Oui, alors là, il y a d'ailleurs une précision qu'il faut apporter. C'est que le numéro du livre journal qui était en cause, qui est le numéro 80, a dû être distribué à peu près 2600 exemplaires. On ne peut pas dire donc que ce soit un raz-de-marée raciste qui est brutalement déferlé sur la France stupéfaite. 2600 exemplaires, c'est quand même pas France Soir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai remarqué que le juge n'avait pas le journal. Il avait une photocopie. Par conséquent, la question se pose de savoir comment un délit peut être constitué, puisque en réalité, le délit, il est imputable au photocopieur. Moi, j'envoie un journal à des gens qui l'achètent. Et je ne l'envoie que par abonnement. Mon journal n'est vendu dans aucun kiosque. Pour lire le Libre Journal, il faut écrire à Serge de Bekech. Tiens, j'en profite, puisqu'une dame me reproche de faire de la publicité. Donc il faut écrire à SDB, 139 boulevard de Magenta, 75-010 Paris, et il faut envoyer 600 francs. Moyennant quoi, on sait à quoi on s'expose, on reçoit le journal. Si on est épouvanté par ce qu'on lit, on renvoie immédiatement le journal à Serge de Bekech en disant « Oh là là, je pensais pas du tout que c'était une abomination comme ça, rendez-moi mes sous, je vous rends votre journal, et par retour, on reçoit ces 600 francs. » C'est aussi simple que ça. Je ne vais pas fourrer le journal de force sous les yeux des gens qui ne veulent pas le lire. Ceux qui le lisent sont des abonnés. Il se trouve que la loi fait obligation de déposer un certain nombre d'exemplaires à la Bibliothèque nationale et au parquet. Je suis en conformité avec la loi et j'offre donc à mon corps défendant.
Je crois, Serge, que finalement, le Libre Journal tirerait-il à 208 exemplaires, ou même à 54. Dans quel procédé sommes-nous ? Nous sommes dans un monde où nous nous dirigeons vers le triomphe du virtuel. Hein, et peut-être faudra-t-il en parler une autre fois. Je crois que c'est un élément de société extrêmement terrifiant, hein, que cette possibilité aujourd'hui, donc de projeter, donc du virtuel, c'est-à-dire de faire passer ce qui n'existe pas. Et donc, à la limite, qu'est-ce qui importe ? Il faut qu'il y ait un abominable fascisme, racisme, antisémitisme menaçant dans ce pays. S'il n'existe pas, inventons-le. Donc, s'il y a un journal comme le Libre Journal, qui n'est ni raciste, ni fasciste, ni antisémite, eh bien, il faut faire comme pour le film Clovis, par exemple. Je convie les auditeurs à faire donc un bon exercice de travail pratique. Qu'ils lisent, par exemple, je tiens à leur disposition, ce qu'ont dit les Christian Chambaud du journal Le Monde, les gens de Libération sur le film Clovis. Quel est ce film qu'on peut se procurer pour 150 francs au 70 boulevard Saint-Germain? Bon, dans lequel je me suis efforcé de faire passer la nécessité du rassemblement des Français. Ce film, donc, a été fait avec la caution et très, très, très minutieuse et donc l'approbation de Jean-Baptiste Biaggi qui, lui, résistait réellement aux Allemands et pas en 45. Eh bien, parce que nous disons qu'il y a ceux qui s'engagent dans la résistance avec le maréchal et ceux qui s'engagent avec le général. Parce que nous disons que nous avons dans la même mémoire le souvenir d'Étienne Dorve fusillé par les Allemands et de Robert Brasillac. Donc un film où nous prenons l'amitié française, où je dis le rendez-vous d'Henri IV. Bon, s'il y a vraiment un film de paix civile que j'ai voulu faire, c'est bien celui-là. Un film dans lequel il n'y a pas un mot de haine. Eh bien, qu'est-ce qu'on lit ? Eh bien, ce film fait l'approbation donc de la LVF, des combattants du Front de l'Est, dans lequel je dis d'ailleurs qu'il y a eu des gens courageux, mais ça n'existe pas. C'est inventé de toutes pièces. Et l'on voit même à la Chambre des députés le socialiste Hollande dire qu'un film d'approbation d'Adolf Hitler, etc. En effet, Adolf Hitler est dans mon film. On le présente au moment où il fait assassiner le chancelier catholique autrichien Dollfuss, qui est pour moi une grande figure. Eh bien, donc Hitler présenté comme celui qui va donc effectivement déclencher, dont l'assassinat de Dollfuss va provoquer d'ailleurs l'ire de Mussolini. Je dis ceci, c'est qu'à cette époque-là, si l'on avait suivi Mussolini mobilisant sur le Brenner, contre Hitler, cela nous aurait épargné la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, il faut lire ce qui est dans Le Monde et dans Libération. Alors nous sommes donc dans une société virtuelle. Le Libre Journal sert de support donc à ce complot dialectique qui vise à unir en quelque sorte comme dans Le Meilleur des Mondes dans le 1984 de Orwell, il faut la minute de haine. Donc Big Brother désigne comme ça une opposition, elle n'existe pas. Elle s'appelle le Libre Journal, ça peut être O'Brien dans Le Meilleur des Mondes ou dans 1984. Voilà le rôle, donc très important, que l'on donne au Libre Journal.
C'est la grande tradition du golem, hein, c'est-à-dire que dans le golem, on fabrique un monstre, et puis ensuite ces fabricants se disent « mais ce monstre est très méchant, oh là là là, quelle horreur, il nous fait peur ». Et là, ces gens-là, par le même système, fidèles à la tradition du golem, fabriquent le monstre de l'extrême droite raciste en France, et ensuite feignent d'avoir peur du monstre qu'ils ont fabriqué eux-mêmes, et qu'ils ont inventé de toutes pièces. Et d'ailleurs, quand mon fils a relu pour moi récemment les débats à la Chambre sur la loi Guesso, c'est ahurissant, c'est ahurissant. car sur quoi a été fondée la loi Guesso ? Sur le fait que dans l'année précédant le vote de la loi Guesso, qui a mobilisé le Parlement pendant plusieurs heures,
il y a eu Carpentras.
Ça, c'est la vérité, mais c'est pas dit une seule fois dans les débats. Ce qui est dit dans les débats, c'est qu'il y a eu, il y a un épouvantable danger raciste en France, parce qu'il y a eu 55 délits racistes au cours de l'année écoulée. 55 délits racistes, dont 46 visaient des Maghrébins. Plus, et alors là, c'est là que les Athéniens s'atteignirent, 18 délits antisémites. Alors le délit antisémite, qu'est-ce que c'est ? Ben, le délit antisémite, on pourrait, ça va du propos malsonnant à l'inscription malséante. Il n'y a évidemment eu aucun crime antisémite en France au cours de ces années. Personne n'a jamais tué quelqu'un parce qu'il était israélite. Jamais personne en France, depuis des années, n'a fait une chose pareille. Mais pour 55 délits racistes et 18 délits antisémites, on a fait voter une loi qui est totalement liberticide. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Monsieur Toubon. Il faut lire, et je les publierai dans le Libre Journal, le prochain numéro, il faut lire les interventions de M. Toubon, de M. Mazot, de Mme Simone Veil, contre l'adoption de la loi Guesso. C'était une dénonciation féroce du totalitarisme que les communistes voulaient faire régner sur la France. Et Toubon s'était engagé formellement à abolir cette loi communiste, votée par une coalition socialo-communiste, c'est-à-dire par la plus grande coalition de tueurs que l'histoire contemporaine ait connue, et la plus grande coalition de voleurs que l'histoire de l'après-guerre ait connue, eh bien, Toubon s'était engagé à faire abolir cette loi votée par des tueurs, des voleurs, et il est maintenant au pouvoir, il est garde des Sceaux. Rien ne serait plus simple, avec l'énorme majorité dont dispose le RPR-UDF, que d'envoyer cette loi liberticide et imbécile aux oubliettes. Eh bien, M. Toubon, non seulement ne l'abolit pas, mais actionne le parquet, pour que les gens qui sont suspects d'avoir enfreint cette loi votée par les tueurs communistes et les voleurs socialistes soient appliqués à des citoyens comme nous et à des journaux comme le mien qui sont des follicules qui ont 2600 lecteurs. Alors que dans le même temps, on distribue à des dizaines de millions d'exemplaires des immondices abjects. Et je dois dire que hier, par exemple, en rentrant assez tard à la maison, j'ai voulu faire ce que j'appelle une tournée de zapping. Alors comme j'ai le câble, j'ai donc zappé sur toutes les chaînes à toute vitesse. Et véritablement, ce qu'on voit la nuit sur les chaînes du câble, c'est terrifiant. C'est quelque chose de totalement monstrueux. C'est des abjections qu'on n'aurait pas osé vendre sous le manteau il y a 10 ans dans les bouches les plus infectes de des quartiers les plus sordides de la capitale. Eh bien ça, c'est diffusé à la télévision, au vu et au su de n'importe qui, n'importe quel gosse peut se lever la nuit, allumer la télé à l'insu de ses parents et découvrir ces effroyables horreurs. Personne ne poursuit ça, mais parce que j'écris dans mon journal à 2600 exemplaires, photocopiés pour Monsieur le juge Chalian, que peut-être la télévision, en montrant les victoires africaines dans les sports, essaye de travailler les esprits pour que les jeunes gens pensent que le métissage est une bonne solution, eh bien ça, on m'arrête, on passe les menottes et on m'envoie en prison. Véritablement, moi je pense que les hommes politiques qui ont voté cette loi devraient avoir honte. Et les magistrats qui se prêtent à leur application devraient réfléchir sur la façon dont ils exécutent la mission pour laquelle ils ont été désignés. Moi, je ne crois pas qu'on devienne juge d'instruction pour le plaisir d'emmerder les citoyens. Je pense qu'il y a une espèce de volonté de faire régner la justice, la loi et l'ordre. Eh bien, si c'est ça, la justice, la loi et l'ordre, si ça consiste à filer en prison un journaliste pour un délit d'opinion, pendant qu'on laisse autour de soi les encagoulés de Corse se pavaner avec leurs armes, les voyous de Nique ta mère menacer les flics de mort, et les pornographes inonder les écrans, on n'a pas lieu d'être fier de la façon dont on exécute sa mission d'ordre public.
C'est le prince. printemps, la nature est en fête. Le gai soleil sourit à l'horizon. Le doux parfum des champs monte à la tête. Partout s'étend le tapis de gazon. Dans le vallon comme sur la colline, tout chante et tout murmure à sa façon. Mais du berger partout la voix domine quand il entend sa belle chanson.
Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 19h30 minutes et 30 secondes. Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national sur 95,6 MHz à Paris, 100,6 à Caen, 104,5 à Chartres, 87,8 à Cherbourg, 101,1 au Havre et 98,8 au Mans. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, diffusé en direct mercredi 5 juin de 18h à 21h, en différé jeudi 6 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Patrick Simon. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Nous adresserons 3 exemplaires de chaque publication aux adhérents qui auront décidé de cotiser pour une somme supérieure à la redevance de télévision. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours du libre journal de Serge de Bekech par téléphone au 46 51 00 85 ou par télécopieur au 46 51 21 82.
Je voudrais préciser une chose, c'est que il ne s'agit pas pour moi de me faire de la pub. Je voudrais qu'on le comprenne bien. C'est pas si j'ai envie de me faire de la pub, j'ai pas besoin de m'appuyer sur cette mésaventure un peu bécassonne. Et c'est vrai que c'est pas.
Déshabillé au Trocadéro.
Oui, je peux me déshabiller au Trocadéro, ça sera beaucoup plus réussi. Mais c'est pas du tout ça. D'ailleurs, évidemment, je ne me compare pas à tous les gens qui ont été enfermés dans des culs de basse fosse, torturés, tabassés, etc. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout ça que je veux dire. Et évidemment, je sais très bien que, comme l'écrit un, comme le dit un correspondant au téléphone, à Saint-Maurice-l'Ardoise, et nous avons quelqu'un dans ce studio qui est silencieux, mais qui était à Saint-Maurice-l'Ardoise, et d'ailleurs Jean Ferré était à Saint-Maurice-l'Ardoise aussi, on traitait les gens de cette façon-là. À l'époque de l'Ouest, un auditeur dit également, avec mes 8 compagnons sauveteurs d'enfants, le 12 juin 95 à Lyon, nous avons subi le même traitement que Serge de Beketch, garde à vue, menottes dans le dos, fouille à corps, incarcération avec des droits communs, etc. Tout ça, je le sais bien du tout, c'est pas du tout contre ça que je proteste. Et je sais pas de me faire de la pub là-dessus. Je veux dire simplement, je vous supplie d'ouvrir les yeux. Madame qui avait dit tout à l'heure que vous pensez qu'on est en démocratie. C'est votre droit de le penser, mais ouvrez les yeux, regardez la façon dont les choses se passent. Comment peut-on dire qu'on est en démocratie quand on voit que non content de maîtriser, de contrôler la totalité de l'information, le pouvoir, mais pas le pouvoir politique, le pouvoir occulte, interdit toute disharmonie avec le discours général. Je prendrai un exemple. Je vous ai cité tout à l'heure le cas de la dépêche de l'AFP. La dépêche de l'AFP a donné le contenu de toute la presse française qui a suivi cette dépêche. Tous les journaux ont repris les erreurs de l'AFP. Tous, sans aucune exception. Le Monde, Var Matin, depuis un grand journal national respecté comme Le Monde, jusqu'à une feuille de chou locale mal écrite, mal foutue, boiteuse, bancale et ridicule comme Var Matin. Toute la presse française a repris ça. Et ça, c'est constamment, les mots d'ordre sont constamment matraqués par toute la presse française. Et il y a un tout petit canard, un tout petit quotidien, parce que c'est un tout petit quotidien comme présent, malgré tout, malgré ses 10, 15 ou 20 000 lecteurs, c'est un petit journal par rapport aux grosses puces, aux grosses machines que sont Libération, Le Monde et tout. Un tout petit décadaire comme le Libre Journal, un tout petit hebdomadaire comme National Hebdo, qui veulent, comme Rivarol et comme tant d'autres, qui veulent ouvrir leur bouche d'une façon un petit peu discordante, en disant, attendez, non, la vérité n'est pas unique, c'est peut-être pas exactement vrai ce que vous dites. Eh bien, cela, non content d'avoir l'énorme machine des médias, cela, on leur interdit de parler. Écoutez, il y a une dépêche, un communiqué de presse du Front National qui parle d'une opération qui va se passer demain. Si vous n'avez pas compris que vous êtes sous l'empire totalitaire du pouvoir médiatique, c'est dramatique. Écoutez ça. Demain, 6 juin, jour de la fête Dieu quand même, 8 chaînes de télévision et toutes les grandes radios vont diffuser le même soir, à la même heure, la même émission. Sur quoi ? Sur le sida. On nous dit qu'il y a un mort du sida toutes les 2 heures en France. Évidemment, c'est une tragédie. Ça fait donc 12 morts par jour, si je ne me trompe pas. Ça fait donc à peu près 4800 morts par an. Évidemment, c'est une tragédie. Mais 4800 morts par an, si c'est une soirée de télévision, combien faut-il faire de toits de télévision pour les 13 000 morts accidentés de la route? Combien faut-il faire de séances de télévision pour les 200 ou 300 000 morts de maladies cardiovasculaires? Combien faut-il faire d'émissions de télévision pour les 500 000 morts du cancer, pour les enfants myopathes, pour les enfants martyrs, pour les femmes violées? Bon, c'est du délire cette histoire. Évidemment, il y a un lobby derrière qui contrôle tout ça. Et quel est le résultat de ce lobby? Quelle est la recherche de ce lobby? Ils l'ont dit, ils ont publié aujourd'hui même un article dans lequel ils disent, le lobby homosexuel dit, la grande victoire qu'on a remportée grâce au sida, c'est la victoire qui nous permet aujourd'hui cette folie du couple homosexuel. Ça a été une campagne de récupération. Il faut lire, il y a un bouquin qui vient de paraître qui a été écrit sur les homosexuels, sur le mensonge homosexuel, sur le mensonge de la déportation des homosexuels, sur le... Tout ça est fabriqué, c'est une pure et simple manipulation médiatique. Voilà ce que je veux dire. On vous ment, soyez lucides. Lisez les journaux avec cette certitude. Alors, comment voulez-vous qu'on se défende dans ce maelstrom de mensonges? Évidemment, on est obligé de gueuler. Évidemment, on est obligé d'être discourtois, incongru, malséant, malsonnant. Bien sûr, c'est le seul moyen d'être entendu. Et par exemple, quand je dis tout à l'heure, quand je fais allusion à la question du métissage, et bien sûr, je ne prétends pas du tout dicter à mes contemporains le choix de leurs alliances. Si, j'ai par exemple, on a deux amis qui sont au Front National, qui sont des gens absolument adorables.
Lui est antillais et elle doit être picarde, je crois. Ce sont des gens merveilleux. Et en plus, ils sont beaux, ils ont des enfants magnifiques. Tant mieux si c'est leur bonheur, ça, tant mieux. Mais ce qu'on peut pas accepter, c'est qu'un pouvoir médiatique nous impose
le métissage laïque gratuit obligatoire. Parce que ça, je l'avais lu dans une revue du Grand Orient qui s'appelle Humanisme il y a quelques années, où l'on disait il faudra prendre soin sur les planètes futures artificielles qu'on lancera, qu'elles ne soient plus donc peuplées que par des hommes exactement semblables. Donc cette volonté qui va contre, je crois, le bon sens, contre le créateur, qu'un parachutiste français épouse une vietnamienne, quoi de plus normal qu'on se mette à tombe sur une belle femme de quelque point que ce soit, et réciproquement, mais en fait cette volonté de métissage, encore une fois laïque, gratuit, obligatoire, si je puis dire, va à l'encontre même du sens commun, et c'est, je dois dire, quelque chose que comprennent parfaitement les amis dont tu parles et avec lesquels nous en parlons très librement.
Moi je voudrais poser une question à tous les spécialistes de l'imposture antiraciste. Pourquoi me poursuivez-vous, moi, quand je dis mon opinion, que j'ai le droit d'avoir? J'ai pas dit qu'il fallait tuer les nègres. J'ai dit que je pensais pas que le métissage était souhaitable dans toutes les circonstances. Voilà, je l'ai dit.
Mais on peut lire ça dans la presse juive.
Mais quand madame Sinclair dit publiquement dans plusieurs interviews que jamais elle n'aurait pu épouser un mari qui ne soit pas israélite, pourquoi est-ce qu'on fait pas une pendule à madame Sinclair? Pourquoi est-ce que moi on me reproche de pas vouloir épouser quelqu'un qui ne soit pas blanc? Et pourquoi est-ce qu'on dit à madame Sinclair, vous avez parfaitement raison de ne pas vouloir épouser quelqu'un qui n'est pas israélite?
On a pu lire dans le passage, et monsieur Mallet n'a pas été, que je sache, traité comme toi, les propos d'un exclusivisme, pour pas dire mieux, tout à fait extraordinaire, de mépris pour les goy. Alors là, dans un cas, tout est permis, l'expression donc de l'orgueil du racisme, et puis alors là, dans le cas de Serge de Beketch, rien.
Moi, je voudrais qu'on... Simplement, voilà, ce que je veux, c'est d'être traité comme les autres. Je prétends pas avoir la vérité révélée. Bon, je suis catholique royaliste. Je pense que c'est ce qu'il faut pour la France, qui est un pays de tradition catholique et de tradition royaliste. Mais je ne prétends pas interdire de parole ceux qui veulent la République. Après tout, c'est leur problème, ils ont le droit de le dire. Ceux qui trouvent que le métissage est très bien, qu'ils l'écrivent, mais qui me laissent écrire le contraire, bon sang. Voilà ce que je veux, c'est tout. Et c'est pas du libéralisme, ça n'est pas du laxisme, c'est simplement la libre expression des opinions des uns et des autres. À partir du moment où les citoyens pourront être informés par des gens qui librement donneront leur opinion, les citoyens pourront se prononcer. Un dernier mot, Bernard, avant de rejoindre à Versailles.
Oui, ben ce que je voudrais dire, c'est que s'il y a des auditeurs des Yvelines, ils peuvent nous rejoindre, salle de l'hôtel de ville à Versailles, je dis nous, puisque Valorant Saint-Just viendra et que nous t'attendons, Serge de Beketch, pour que tu puisses amener des journaux, que l'on puisse faire abonner au libre journal, parce que la riposte, il n'y en a qu'une, c'est la nécessité d'un abonnement à présent chaque jour, c'est la nécessité de l'abonnement au libre journal, de l'abonnement à Reconquête, me permet de prendre, mais en ce moment, il y a un geste civique, un geste de résistance par excellence, c'est l'abonnement au Libre Journal. Là, je lance un appel à tous les amis de la Griffe, à tous les amis de Chrétienté Solidarité, du Centre Charlier, qu'ils fassent un effort, même qu'ils se regroupent, abonnement au Libre Journal. Serge, on commence tout à l'heure à l'hôtel de ville de Versailles.
Merci Bernard. Selon la vieille chanson, merci Bernard. Oui, je voudrais ajouter un mot quand même à ce que vient de dire Bernard. Il est très très gentil d'avoir invité tous ses amis à s'abonner au Libre Journal, ça me fait très plaisir, mais je comprends parfaitement que certains ne soient pas intéressés par le Libre Journal. Je crois que la riposte, la vraie riposte, c'est l'information. Si vous voulez riposter, vous pouvez vous abonner au Libre Journal, mais je dirais que c'est la même chose pour le combat politique et le combat spirituel, de s'abonner à Présent, de s'abonner à Rivarol, de s'abonner à National Hebdo, de s'abonner à Monde et Vie, de s'abonner à tous les journaux qui mènent le même combat, qui est un combat naturel, sain et normal, qui est un combat de résistance. Je crois qu'il y a une presse de résistance en France, il y a une presse de collaboration, c'est parfaitement clair maintenant. Nous sommes un pays occupé intellectuellement, spirituellement, physiquement, et contre cette occupation, contre l'arrogance de certains occupants, il y a une presse de résistance qui se développe, et c'est toute cette presse de résistance qu'il faut soutenir. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre les armes. Je le précise pour les flics de la pensée et leurs chiens de garde qui nous écouteraient. Je n'appelle pas à la révolution dans la rue. Je n'appelle pas aux armes parce que je sais très bien que ça aboutit toujours à des tragédies effroyables et terriblement sanglantes. J'appelle à une prise de conscience. Moi, je suis absolument convaincu que nous avons raison. Que nous avons raison de croire ce que nous croyons et que nous avons raison de mener le combat que nous menons. Et j'ai des... Là, il y a beaucoup de messages qui arrivent, qui sont des messages, curieusement, envoyés par des auditeurs arméniens. Il y a un monsieur, je pense que je peux donner son nom, puisqu'il le donne à l'antenne, il le donne sur un fax, il dit, moi je m'appelle Serge Djambazian et je vous soutiens, amitié sincère, et je pourrais parler de Rémi, je pourrais parler, je ne veux pas donner tous les noms, mais beaucoup d'amis arméniens, je pourrais parler de Tony, etc., qui nous écoutent et qui sont... ils sont arméniens français. Ça existe, ça. Ils sont français de tradition arménienne, comme il y a des français de confession et de tradition israélite, comme il y a des français de tradition musulmane, parce qu'ils sont harkis.
Ce sont nos meilleurs amis.
Et eux ont parfaitement compris que notre combat n'était pas un combat xénophobe et raciste. C'est le combat... des gens qui aiment leur pays, qui ont envie de vivre dans leur pays. Moi, je ne vois pas pourquoi, encore une fois, on célèbre admirablement la victoire de la démocratie, quel que soit le gagnant en Israël, et pourquoi on empêche en France un parti comme le Front National, qui est un parti démocratique, qu'on le veuille ou non, de se présenter aux élections et d'occuper la place qu'il mérite. Il faudrait vraiment que ce message puisse passer et que les auditeurs et que les citoyens de ce pays comprennent ça. Il y a véritablement un combat de résistance qui est à mener. Un auditeur me dit, je suis trop écœuré par ce que vous racontez, j'ai honte de ce pays de lâches et de veaux, français, officier de réserve et fils d'immigrés européens, je me demande aujourd'hui si un pays comme ça ne mérite pas de disparaître. Alors dites-nous comment vous faites pour garder le cap. Moi je garde le cap parce que je crois absolument que la volonté de la Providence est qu'on s'en sorte. Et que si on baisse les bras, c'est la pire bêtise qu'on puisse faire. On est dans le camp des gagnants. On va gagner, c'est certain. Si c'est pas nous qui gagnerons, ce sera nos enfants. Mais ce parti-là va gagner parce que l'Écriture nous dit les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Donc on est certain d'avoir la victoire. Il suffit de l'attendre et de combattre pour qu'elle soit un peu plus rapide que ça. Alors, pour en finir avec ma petite affaire, je voudrais montrer à quel point les choses sont relatives. Parce que on vient de faire une heure et demie autour d'une anecdote qui est l'arrestation d'un journaliste pour une journée. Et j'ai demandé à Maître Valrand Saint-Just de venir ce soir, parce que Maître Valrand Saint-Just est aussi l'avocat d'un résistant qui, lui, n'a pas été arrêté pour une journée en France, mais qui est en prison dans un effroyable cul de basse-fosse depuis combien de temps?
Ah bien, ça fait plus de 2 ans maintenant, puisque c'était en avril 94 qu'il est enfermé au 3e sous-sol du ministère de la Défense de Yarzé, où il n'a pas de quoi écrire. On a vu certains, on peut le dire, de nos amis libanais dimanche, ils nous ont redonné les détails. Il n'a pas de quoi écrire, il n'a pas de papier, il n'a pas de crayon.
Alors cet homme, c'est...
C'est Samir Jaja, et pourtant Dieu sait s'il aurait à écrire. Alors... on peut peut-être commencer par faire 2 réflexions. Ben, les Libanais, même maronites, sont des basanés, mais ce sont quand même nos meilleurs amis et on s'en occupe vraiment complètement. Et quand ils sont ici en France, on les aime et on les entoure. Et puis, quelqu'un te reprochait un peu tout à l'heure de t'occuper de quelque chose, de ce qui t'est arrivé et que finalement ça n'était pas très grave. Évidemment, ce qui arrive à Samir Jaja, c'est 10 fois plus grave, 10 fois plus difficile à supporter, mais on peut bien dire que les choses étant ce qu'elles sont, mutatis mutandis, les caractères de gravité existent dans l'un ou l'autre cas. Alors, Samir Jaja, lui, c'est un prisonnier politique accusé des pires crimes et qui est dans une situation internationale et nationale extraordinairement difficile. Il est donc depuis 2 ans dans cette oubliette, parce que c'est physiquement une oubliette, et
au figuré aussi, puisqu'il est oublié de tous. Alors, je vais en donner un exemple.
Oui. Je crois que c'est intéressant de donner des détails techniques, matériels.
Je vais en donner un exemple. Nous avons toujours cherché et nous cherchons à intéresser le plus de monde possible et les grandes consciences au cas de Samir Jaja. Éliminons le fait qu'il soit libanais chrétien, éliminons la question de savoir s'il est coupable ou pas. On veut simplement s'intéresser au fait de savoir qu'il est maltraité, que ses droits de la personne humaine ne sont absolument pas respectés, encore moins ceux qui sont autour de lui, puisque la torture est couramment pratiquée là-bas. Alors nous avons cherché à intéresser les grandes consciences européennes et mondiales à ce cas. Ça a été absolument impossible. Le Centre des Nations Unies pour les Droits de l'Homme s'est, je le pense parce qu'ils me l'ont dit, saisi de ce cas, mais ils m'ont indiqué ensuite que toute la procédure et tous les résultats seraient conservés ultra secrets et que nous ne saurions jamais rien de ce qu'ils ont pu faire ou ne pas faire vis-à-vis des autorités libanaises. Là encore, Serge, c'est comme ton cas. Deux poids, deux mesures, c'est Samir Jaja. Personne ne se lève, aucune grande conscience ne se lève. Alors en ce qui concerne les responsables et les hommes politiques français, bon, nous sommes intervenus auprès du ministre Charette et auprès du président Chirac quand ils sont partis au Liban. Je crois que c'était peine perdue, mais enfin, comme dit Zinoviev, il ne faut jamais manquer de lancer une bouteille à la mer. Mais je dois dire que j'avais eu un contact un peu, même amical et assez prolongé avec un homme politique français qui s'appelle Monsieur Larcher, qui est sénateur-maire de Rambouillet, qui m'avait donné 3 ou 4 rendez-vous avant de me recevoir, et qui m'a gardé, ma surprise a été assez grande, pendant 1h30 au Sénat, pour que nous parlions de l'affaire Jaja. Et il m'a dit qu'il connaissait très bien le Liban, qu'il connaissait même Samir Jaja autrefois, et qu'il partait au Liban, qu'il y allait souvent, et qu'il fallait absolument que l'épouse de Samir Jaja, Setrida Jaja, le voie quand il serait au Liban. Pensez bien que le message a été immédiatement passé, puisque pour une fois, un homme politique qui n'était pas du Front National faisait mine de s'intéresser au cas de Samir Jaja, et quand M. Larcher est arrivé au Liban, il a été l'objet de sollicitations de la part de Setrida Jaja et de ses amis pour le voir en considération des promesses qu'il avait faites. Et là aussi, peine perdue. Et Setrida Jaja et ses amis, notamment un que nous avons vu ensemble dimanche, ont été purement et simplement éconduits. Pendant 8 jours, ils ont fait siège de M. Larcher. Pendant 8 jours, ils ont été rejetés pour, jusqu'à la dernière minute, s'entendre dire Monsieur Larcher n'a pas eu le temps, ne peut pas vous recevoir. Ça me fait penser à l'histoire que Jacques Izorni raconte dans ses mémoires quand on lui a dit seul P12 peut sauver Brasillac, et qu'il est parti par le train de nuit totalement désargenté juste après la guerre au Vatican pour voir P12, où il est resté 8 jours, 10 jours au Vatican, ballotté de bureau en bureau, de cardinal en cardinal, pour revenir ayant épuisé tous les recours et n'ayant jamais vu personne de responsable. Eh bien, le sénateur Larcher, je donne son nom, nous a évidemment extraordinairement déçus, mais finalement, je me demande comment est-ce que j'ai pu faire une minute confiance à ce genre de personnage. Pourquoi est-ce que j'ai été le voir? Pourquoi est-ce que j'y ai cru un instant? Mais c'est un peu l'histoire perpétuellement recommencée. On se dit toujours, eh bien pourquoi pas, peut-être que une fois, et puis finalement, on se retrouve toujours avec un coup de pied dans le derrière, et un mépris souverain qui vous est infligé parce que tu t'appelles Serge de Bekech et parce qu'il s'appelle Samir Jaja.
Je crois que dans le cas du Liban, qui était un véritable martyr pour ce pays. C'est un pays occupé dans des conditions bien plus rudes que les nôtres, et les résistants sont traités d'une façon bien plus rude que nos résistants à nous. Mais il y a quelque chose qui est particulièrement répugnant, je dirais, dans cette affaire, et tu viens d'y faire allusion, c'est l'attitude des politiciens français.
Moi, je me souviens d'une époque où certains politiciens français sont allés à grand tam-tam au Liban pour se faire naturaliser libanais.
Libanais d'honneur, Léotard et De Villiers.
Et j'ai pas entendu beaucoup dire que ces gens-là aient protesté, en tout cas, peut-être qu'ils ont consacré beaucoup de temps, eux, les Libanais d'honneur, à défendre la liberté du Liban et à exiger que foute le camp, le tortionnaire du Liban, le pays, la Syrie qui occupe actuellement ce pays, et que Israël foute le camp du sud Liban. On ne les entend pas, ces résistants-là.
J'avais demandé audience à M. De Villiers, il ne m'a même pas répondu à ma lettre. Et alors, tu sais aussi, Serge, que si je suis là ce soir, et si tu m'as demandé de parler un instant du Liban, c'est que l'heure est quand même particulièrement grave pour Samir Jaja, car le troisième procès qui lui était intenté, le procès de l'attentat de Zouk, vient de se terminer. Il a exigé, ainsi que sa femme, qu'aucun avocat ne soit présent, ni avocat libanais, ni ses fidèles avocats libanais, ni les avocats français ou australiens ou américains qui étaient venus. Il a exigé qu'aucun avocat ne soit présent à la barre pour ne pas cautionner ce qui est évidemment une mascarade de procès. Ce procès s'est terminé et on nous dit, tu l'as entendu comme moi, que cette fois-ci, alors que le jugement doit être rendu le 13 juillet, Samir Jaja risque véritablement la peine de mort. Alors là, encore une fois, ça n'est pas la personne de Serge de Beketch, finalement, ou la personne de Samir Jaja qui est en cause. C'est ce que cette affaire de Samir Jaja représente. Et c'est encore une fois, et au Liban, l'abaissement systématique de la communauté chrétienne et la persécution contre les représentants de cette communauté chrétienne parce qu'on veut islamiser le Liban. Que ceux qui, comme la dernière fois, quand j'en avais parlé ici à Radio Courtoisie, ont l'intention d'écrire en disant qu'on leur casse un peu les pieds avec les Libanais, c'est pas les Libanais, c'est pas Serge de Beketch, c'est pas Samir Jaja, c'est encore une fois les chrétiens, les maronites, les chrétiens, là c'est au Liban et c'est l'islamisation. D'ailleurs, on en terminera peut-être par là à ce sujet-là, nos amis libanais qui viennent de Beyrouth en France, passer 8 jours ou 15 jours, repartent épouvantés par la situation française en disant vous avez vu ce qui s'est passé au Liban à Beyrouth, vous n'avez rien compris, vous allez comme nous vers des difficultés absolument extraordinaires. Et c'est la leçon qu'il faut en retirer.
Voilà, je suis content que Maître de Saint-Just ait pu venir parler de cette affaire qui lui tient particulièrement à cœur. Je veux dire que c'est pratiquement avec Biagi, Patrimonio, et qui encore?
Et d'autres, non, ce sont les trois principaux avocats français qui se sont occupés de ça. Mais enfin, c'est surtout, il faut le redire, c'est grâce à Bernard Anthony que nous avons eu la possibilité de défendre ce pays et ces gens-là. Et il faut bien dire aussi, c'est pas une simple possibilité pratique que nous a donné Bernard, c'est une possibilité intellectuelle qu'il nous a enseignée. Ce qu'il dit, je crois que c'est peut-être un de ceux qui le dit le mieux, le bon nationalisme à la française. Et là aussi, quand on nous répète à longueur de jour que nous sommes des franchouillards et des nationalistes exacerbés, c'est ça le mot, hein ?
Oui.
Exacerbés, oui. C'est totalement, enfin, ça ne veut rien dire, parce que nous avons toujours été, et surtout Bernard, ont toujours été vers les peuples du monde, notamment les chrétiens, mais les plus persécutés. Et nous les considérons comme nos amis les plus chers, nos camarades, nos parents, presque même plus que par la parenté du sang, ou de l'alliance, hein, qui quelquefois n'est pas
d'ailleurs,
tout à
fait. D'ailleurs, on choisit ses amis, on ne choisit pas toujours sa famille.
Voilà, même. Exactement.
Comme disait le Yougoslave à qui on demandait pourquoi on appelait l'Union soviétique un peuple frère, alors qu'on appelait la France un peuple ami, il avait répondu parce qu'on choisit ses amis, on ne choisit pas toujours sa famille. À propos de la curieuse passivité des spécialistes de la pétition en France en ce qui concerne le sort de Samir Jaja, je voudrais... alors vous allez me dire, mais pourquoi ça fait 20 minutes que vous parlez de Samir Jaja? Samir Jaja, c'est un monsieur, c'est un homme... combattant de la résistance libanaise, d'une des tendances de la résistance libanaise, qui est en prison au Liban. En quoi ça concerne la France? Je vais vous dire en quoi ça concerne la France. Ça concerne la France d'abord parce qu'on a une obligation traditionnelle de fraternité avec le Liban. Le Liban, par tradition, c'est un pays de France. Voilà. Comme l'Écosse d'ailleurs, curieusement. Les citoyens libanais sont citoyens français, en fait, par une espèce de parenté...
Les catholiques écossais, hein.
Et les catholiques écossais aussi. Il y a comme ça des parentés secrètes qui existent. C'est ce qui fait l'admirable de l'histoire. Bon, ça c'est une raison. Il y a une deuxième raison, c'est que je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas en France faire pour Jaja ce qu'on vient de faire tout récemment pour une dame qui est en prison pour avoir assassiné son employeur est grièvement blessé, le père de cet employeur. Cette dame est une dame africaine qui a été condamnée à une lourde peine de prison pour avoir, après un procès qui s'est passé en France, en public, dans toutes les conditions démocratiques et d'ouverture et de transparence nécessaires. Elle a été très lourdement condamnée parce qu'il a été établi qu'elle avait tué son employeur et blessé grièvement le père de son employeur, et elle a soutenu que c'est parce qu'ils avaient tenté de la violer. L'explication a été repoussée par le tribunal, puisque le tribunal et le jury populaire a condamné cette personne africaine. Ce matin, j'écoutais Radio RFI, qui est la radio africaine en France, qui est d'ailleurs extraordinairement intéressante à écouter. Je vous la recommande particulièrement quand vous, pendant les rediffusions de Radio Courtoisie, sur Radio Courtoisie, d'émissions que vous avez déjà entendues. J'entendais un monsieur qui est venu, qui est un compatriote de cette dame, qui est venu d'Afrique et qui a ramassé, qui a, comment dirais-je, récolté des signatures. Il a présenté au président de la République française la signature de 40 000 citoyens qui exige la libération de l'égorgeuse africaine, au motif de quoi? Elle a été le sujet d'un procès parfaitement honnête, parfaitement légal et transparent. Elle a été condamnée, elle exécute sa peine dans une prison française, dans des conditions normales de température et de pression. Évidemment, les prisons françaises, je sais qu'on a beaucoup d'auditeurs dans certaines prisons de la région parisienne et de Normandie, et je m'en félicite, les prisons françaises sont peut-être pas quand même les petits palais 3 étoiles que on s'est amusé un peu abusivement à présenter. Mais c'est pas non plus un troisième sous-sol dans le blocus de béton du ministère de la Défense de Beyrouth. Et cette dame africaine n'est pas traitée comme M. Jaja est traité. Or, M. Jaja n'a tué personne. Il n'a pas égorgé son employeur, M. Jaja. M. Jaja est un détenu politique. Il n'y a pas en France de pétition pour la libération de M. Jaja. En revanche, il y a une pétition de 40 000 signatures pour la libération de cette dame africaine qui a égorgé son employeur et blessé grièvement le père de ce dernier. Alors, il y a beaucoup de Libanais en France, je dois dire que je comprends parfaitement que la diaspora libanaise est divisée entre les chamounistes, les jajatistes, les aouinistes, les touristes, je ne sais pas d'ailleurs exactement comment ça fonctionne, j'ai jamais rien pu y comprendre. C'est pas, même, je sais pas, Maître de Saint-Just apparemment évolue là-dedans avec une grande intelligence de la topographie, c'est loin d'être mon cas. Mais je dis, ce sont des Libanais, ce sont des hommes d'honneur et ce sont des hommes de tradition. Et moi, je pense qu'ils devraient se mobiliser massivement pour obtenir au moins 40 000 signatures, peut-être 400 000 et 4 millions, ça serait encore mieux, de signatures pour que la Syrie enlève ses sales pattes de Samir Jaja et en profite d'ailleurs pour sortir du Liban et qu'Israël fasse la même chose et qu'enfin ce pays soit respecté comme un pays souverain. Maître de Saint-Just.
Oui, je voulais répondre à la question d'un auditeur qui demande que font au Liban pour la cause que vous défendez les patriarches maronites Nasrallah Sfer et orthodoxe Ignace IV. L'orthodoxe Ignace IV ne fait rien.
pour des raisons qui seraient trop longues à développer ici.
Pas de mal des orthodoxes.
Je ne dis pas de mal des orthodoxes, j'ai dit qu'il n'a rien fait. Le patriarche maronite est à l'heure actuelle, surtout depuis l'exil d'Aoun et la mise en prison de Jaja, le véritable chef spirituel et temporel de la communauté maronite. Je crois qu'il fait tout ce qu'il est en son pouvoir de faire pour défendre Samir Jaja et qu'il a obtenu certaines choses. Peut-il aller plus loin? Je ne peux pas répondre, je ne suis pas patriarche maronite du Liban, je crois que c'est à lui seul de juger, mais enfin je peux dire à l'auditeur que Mgr Sfer s'occupe beaucoup du cas de Jaja. Ce qui nous aurait particulièrement plu, c'est que le pape, comme il en a eu, comme il en a l'intention, se déplace à Beyrouth. Il voulait y aller, d'après ce que nous savions, au mois de septembre prochain. Mais nous savons maintenant que c'est un peu remis au calende grec, la Syrie, qui est toute puissante à Beyrouth, ayant indiqué, paraît-il, au Vatican que la sécurité du pape ne serait pas assurée. Et pourtant, ça serait l'avenue de Jean-Paul II, cornaqué et renseigné par Mgr Sfer, qui, à mon avis, seul pourrait avoir une incidence sur le traitement infligé à Samir Jaja, ou même à sa libération.
Est-ce que mon idée de pétition peut trouver un écho dans les milieux libanais? Est-ce qu'ils peuvent, selon toi, se mobiliser?
Les milieux libanais sont très mobilisés, sont parfaitement au courant de ce qui se passe, bien entendu. Ils font beaucoup de choses, là non plus, je ne les juge pas. Peut-être quand même serait-il nécessaire qu'ils se mobilisent plus. Je me souviens qu'il y a à peu près un mois, nous avons manifesté pour Samir Jaja du Trocadéro à l'ambassade du Liban, rue Copernic, et qu'il n'y avait pas un seul Libanais avec nous. Le message avait peut-être été pas très bien passé, mais en tout cas, nous avions quand même été déçus. Mais nous ne sommes pas dans la communauté libanaise, à chacun son boulot. Ils devraient se mobiliser, à mon avis, beaucoup plus énergiquement, car cette date du 13 juillet qui approche peut être une date extraordinairement douloureuse.
Mais pourquoi, ça c'est quand même la question qui se pose au fond, pourquoi Samir Jaja n'est-il pas à la mode?
Parce que Samir Jaja, pour deux raisons pour être bref, Samir Jaja, sa famille ne fait pas partie des grandes familles de l'establishment libanais. Et donc, il a toujours été un petit peu rejeté et méprisé par ces grandes familles. C'est assez triste à dire d'ailleurs cela, la bourgeoisie maronite libanaise n'apprécie pas dans une bonne partie Samir Jaja. Ensuite, Samir Jaja est finalement le seul responsable politique à avoir dit « Je ne quitterai jamais le Liban. Je ne partirai pas. Je ne partirai pas en Occident pour me réfugier ou pour faire des affaires ou quoi que ce soit. Je ne partirai pas. Venez me chercher. » Alors, on n'a pas l'habitude.
Oui, parce qu'il aurait parfaitement pu se soustraire à la police libano-syrienne et chez le camp en France.
Tous les membres du gouvernement qu'il a rencontré à l'époque, lui, il y a deux ans, lui ont dit, si tu n'es pas parti, je ne sais plus quand, le 15 avril, les frontières sont ouvertes, on te paye même le billet d'avion, tu pars avec ta femme, tu emmènes ce que tu veux, etc., etc. Billet d'avion, pas de problème. Mais si tu n'es pas parti le 15, alors là, tu auras de gros ennuis. Il les raccroche au nez en disant, je suis chez moi, venez me chercher, je ne me soustrairai pas à la justice de mon pays.
Je ne comprends pas du tout ce genre d'attitude, moi. Je dis, ça me paraît...
C'est un militaire, Jaja. C'est un chef militaire.
Nous avons d'ailleurs rencontré récemment ensemble un Libanais à qui le même traitement a été réservé. Lui, il a pris l'avion.
lui n'étant pas militaire, a pris l'avion.
Oui, c'est un avocat libanais, un des principaux avocats les plus actifs de Samir Jaja, qui a été obligé de quitter le Liban, mais je crois que nous n'en parlerons pas plus ce soir, parce que pour certaines raisons, il ne veut pas spécialement qu'on en parle.
Ce que je voudrais dire pour en finir sur ce sujet ce soir, c'est que j'aurai probablement des invités libanais régulièrement dans mon émission, parce que je crois que c'est un sujet dont il faut impérativement parler, c'est un sujet grave, c'est un sujet d'honneur, je le répète. Et ne serait-ce que pour cette raison, il faut en parler.
Et qui montre encore une fois le défaitisme, l'absence de courage de nos gouvernants. Et pire encore, la mainmise totale de la Syrie et du Premier ministre actuel libanais sur Jacques Chirac. Nous avons donc là tous les ingrédients même d'une politique et d'une vision politique franco-française qui est assez intéressante.
Et une des principales raisons, c'est que, je le rappelle, les Libanais sont français. Et je l'ai vu encore, j'en ai eu la confirmation émouvante.
Depuis Saint-Louis.
depuis Saint-Louis, ils sont français. J'en ai eu la confirmation émouvante lors de cette rencontre que tu avais organisée, Laurent, à ton domicile, et où j'ai vu, on a passé une soirée avec des Libanais, dont un, Eddy, retournait au Liban le lendemain. C'était stupéfiant de voir à quel point tous ces gens sont français, totalement français dans leur façon de plaisanter, dans leur réaction, dans leur façon de parler. Ils parlent en français absolument parfait. Alors là, exactement, j'allais dire comme nous, bien meilleur que le mien. Ils ne font aucune des fautes que nous commettons habituellement. Ils ne s'accordent aucune des facilités de langage ou des faiblesses de langage que nous nous accordons. C'était tout à fait remarquable. Ils sont drôles. Les jeux de mots pétillent et les grands jeux de mots de très belle qualité. Les allusions, les références culturelles, les références historiques
françaises,
littéraires, c'est tout à fait stupéfiant. Et ce qui est encore plus stupéfiant, c'est que de temps à autre, quand ils s'adressaient la parole entre eux sur un point précis, sur un petit point de détail, très discrètement, ils reprenaient leur langue maternelle, c'est-à-dire que c'était des gens qui étaient capables de passer instantanément, qui prouve qu'ils manient parfaitement le français comme des natifs, ils passaient instantanément du français au libanais, du libanais au français, au cours de la même phrase pratiquement. C'était tout à fait éblouissant et tout à fait émouvant de voir ça. Moi je crois qu'il faut absolument aider ce peuple à garder sa dignité, au moins il ne faut pas se prêter à l'effroyable complicité de silence et de canaillerie qui est celle du gouvernement français dans l'affaire libanaise. Merci Valérand Saint-Just, je crois que tu regagnes Versailles, tu vas rejoindre Bernard Anthony. Alors, je rappelle pour les auditeurs qui voudraient faire la même chose que ce soir même à l'hôtel de ville, à la salle Cadoret, à 20h30, c'est-à-dire dans un quart d'heure, commencera une soirée consacrée à la projection du film de Clovis Jusqu'à nous, la France, après une présentation de Bernard Anthony, député européen, et de Michel Hubot, rédacteur en chef de Reconquête. Donc, je répète, ce soir, 20h30, dans un quart d'heure, ça commence, mais vous pouvez y aller. Je ne pense pas que la projection commencera avant 9h, à mon avis, ça m'étonnerait bien.
Très bien.
Donc, de Clovis Jusqu'à nous, la France, qui est un très très beau film réalisé par Bernard Anthony, enfin, dont le scénario, le synopsis est de Bernard Anthony. Merci, Valérand Saint-Just, et à bientôt.
Dans la vallée, au bord de la Moselle, je cheminais sous l'herbe peuplier. L'oiseau chantait sa romance nouvelle, quand j'aperçus la ferme des Rosiers. Le gai soleil inondait de lumière, des enfants blancs jouaient près de son seuil. Entrez, entrez, disait la fermière, aux voyageurs, nous faisons bon accueil, nous faisons bon accueil. Soyez le bienvenu, vous qui parlez de France, vous trouverez toujours place dans nos foyers, plus tard en apportant la joie et l'espérance, puissiez-vous retrouver la ferme des rosiers. En mon honneur, on apporta des verres afin de boire en parlant du pays. Nous évoquions le souvenir des guerres, des jours de deuil où nous fûmes trahis. Ses yeux alors s'obscurcissaient de larmes. Elle disait avec un mal accent: je fus témoin de l'un de ces faits d'armes où nos soldats luttaient 10 contre 100. Luttaient 10 contre 100. Soyez le bienvenu, vous qui parlez de France, vous trouverez toujours place dans nos foyers, plus tard en apportant la joie et l'espérance, puissiez-vous retrouver la ferme des rosiers. Étaient là ces hommes héroïques. On avait dit il faut vaincre ou périr. Rien n'ébranla leur courage stoïque, et humblement ils sont tous su mourir. Sous tout mon être tressaille, je les revois devant mes yeux rêveurs, défigurés par la mitraille, et ces martyrs attendent leur vengeur, attendent leur vengeur. Soyez le bienvenu, vous qui parlez de France, vous trouverez toujours place dans nos foyers, plus tard en apportant la joie et l'espérance, puissiez-vous retrouver la ferme des rosiers. Ils sont couchés là-bas dans cette terre, et mes rosiers les recouvrent de fleurs. Le rossignol y chante avec mystère, et la rosée fait briller ses fleurs. Notre maison est restée à la France. Dans le cellier, j'ai caché leur drapeau. Malgré l'exil et les jours de souffrance, je reste ici pour garder ces tombeaux. Pour garder ces tombeaux, soyez le bienvenu. Vous qui parlez de France, vous trouverez toujours place dans nos foyers, plus tard en apportant la joie et l'espérance, puissiez-vous retrouver la ferme des rosiers.
Ça, c'est très très joli. C'est une chanson qui s'appelle La Ferme des Rosiers, qui a été interprétée par Pierre Valeret, une romance dramatique qui fut créée à la Scala par Marie-Thérèse Abiat, dite Amiani, qui était la porte-parole de la cause de nos provinces perdues qui a suivi la défaite de 1870. C'était donc une chanson qui pleurait en quelque sorte la perte de l'Alsace. C'est extrait d'un disque compact qui s'appelle Chanson introuvable, chanson retrouvée, et qui est diffusé par Radio Bleu, avec le soutien de Radio Bleu. Ça montre surtout ce qu'était, j'en parlais tout à l'heure, la musique populaire de la fin du XIXe siècle.
Alors, on peut ricaner du discours, du contenu, on peut ricaner de la forme, on peut trouver que la musique est mièvre, etc. Mais moi, je trouve que c'est beaucoup plus agréable à entendre que les appels à égorger des poulets que chante Nick ta mère et MC Solar. Puis au moins c'est français, c'est de chez nous, et c'est porteur de beaux sentiments et de belles idées. Et je préfère largement ça au rap, et au rap aussi d'ailleurs. Et je vois pas pourquoi, si je dis ça, je suis considéré comme un épouvantable fasciste, un raciste et un nazi. Il faut vraiment qu'on en soit arrivé à une extraordinaire déformation des idées pour qu'on puisse prétendre que quelqu'un qui aime son pays est un horrible personnage. Alors j'avais promis de donner la parole aux auditeurs, je vais donc la leur donner. On a sélectionné quelques interventions. Ça n'est pas Victoria qui a fait ça, puisque Victoria est en train de faire de la couture, figurez-vous. Elle n'a pas pu venir nous rejoindre ce soir. Je livre tous les secrets parce qu'elle prépare les costumes de la fête de l'école. Donc c'est une bonne militante de l'instruction laïque obligatoire, et du coup elle s'est mise à la couture. Alors je la salue parce que je sais qu'elle nous écoute en cousant. C'est donc ma moitié, je dirais même mon tiers, en l'occurrence s'il s'agit de poids, qui a reçu les messages et qui les a triés. Triés démocratiquement, bien entendu. Alors je les prends dans le désordre. Une auditrice propose que, par exemple, on fasse une émission sur les victimes du sang contaminé. C'est tout à fait intéressant, cette proposition, parce qu'en réalité, le sida est aussi une maladie qui se manifeste chez les contaminés transfusionnels. Et j'ai remarqué que depuis quelques semaines, on voit apparaître de-ci de-là des articles qui dénoncent la mainmise de l'extrême droite sur les associations de contaminés transfusionnels. Vous voyez un peu le chemin que les choses prennent. Comme le responsable politique principal de cette tragédie n'est pas à proprement parler un homme d'extrême droite, puisque c'est Monsieur Fabius qui est responsable mais pas coupable, comme on a dit. Comme c'est lui, eh bien on est en train de découvrir, figurez-vous, que les gens qui s'occupent des transfusés malades, des transfusés contaminés, sont des gens d'extrême droite. Et bien entendu, de là à conclure que leur combat est un combat politique et raciste, il n'y a qu'un pas, et de là à exclure du débat sur la maladie les transfusés contaminés, il n'y a qu'un pas, et de là, les ayant exclus, à ne pas les indemniser, il n'y a qu'un pas. Autrement dit, là, on est au cœur du problème. La question de la contamination par transfusion est une question particulièrement centrale dans le cas du sida. Parce qu'il faut quand même dire une chose de façon bien claire. Je sais que c'est politiquement incorrect de le dire, mais je vais le dire quand même. Il y a trois sortes de malades du sida. Il y a les malades du sida homosexuels, il y a les malades du sida hétérosexuels, et il y a les malades du sida transfusionnels. Les deux premières catégories sont des gens qui ont pris des risques. Des risques qui ont assumé des risques. La sanction de ces risques est tragique, mais beaucoup savaient que leur comportement, soit de vagabondage, soit antiphysique, les exposait à un danger. Et ça, il y a quelqu'un qui est beaucoup mieux placé que moi pour en parler et qui a beaucoup plus de titres, c'est Dominique Morin, qui est un malade du sida et qui explique ça parfaitement bien et beaucoup mieux que moi. Et je l'ai déjà invité dans cette émission. Et puis, il y a des malades du sida qui sont, si j'ose dire, totalement innocents. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas qu'ils prenaient un risque, qu'il n'y a de leur part aucune adhésion à un comportement délirant ou à un comportement antiphysique. Ce ne sont pas des vagabonds sexuels, ce ne sont pas des antiphysiques, des invertis. Ce sont des gens qui menaient une vie de famille, qui ont eu un problème de santé, qui ont reçu une transfusion et pour des raisons de fric, car c'est ça la clé du débat, pour des raisons de fric, le sang qu'on leur a injecté était contaminé. Et ce sont des gens qui meurent, qui sont malades et qui meurent, parce que des salauds ont fait du fric en vendant du sang pourri. Ces gens-là sont par définition des victimes innocentes. Ils sont l'incarnation même de la victime innocente. C'est une accusation constante contre un pouvoir politique corrompu, véreux et pourri. Eh bien, ces gens-là, il faut les éliminer du débat parce qu'ils portent, ils font un tort formidable au lobby politicien et au lobby homosexuel. Et pour les éliminer du débat, on décrète qu'ils sont d'extrême droite. Pourquoi ? Tout simplement parce que monsieur, les frères Garvanov, par exemple, se sont exprimés dans des journaux de la presse nationale, comme ils se sont exprimés nationalistes, comme ils se sont exprimés dans tous les journaux qui leur donnaient la parole. On en conclut, on fait semblant d'en conclure que ce sont des extrémistes de droite, et qu'à ce titre-là, ils devraient se taire. Voilà comment on enveloppe, sous les dehors de la lutte antifasciste, des réalités absolument sordides de fric. Parce que s'il faut indemniser, à la mesure du crime qui a été commis contre eux, les contaminés transfusionnels, la note à payer par les laboratoires qui ont vendu du sang pourri, et la note à payer par les politiciens qui ont permis en pleine connaissance de cause la commercialisation de ce sang pourri, va être quelque chose de phénoménal. Et ces gens-là ont peur pour leur fric. Voilà toute la vérité de l'affaire selon laquelle les organisations de contaminés transfusionnels seraient aujourd'hui tenues ou contrôlées par l'extrême droite. Un auditeur, je crois que c'est un auditeur, nous dit « De plus en plus de Français vont jusqu'à prédire l'imminence d'une guerre civile. Comment se fait-il que des gens bien informés comme les magistrats, confrontés journellement aux auteurs d'exactions, la plupart des journalistes, des acteurs, des hommes politiques, comment se fait-il que ces adversaires ou ennemis déclarés des vrais patriotes n'arrivent pas à comprendre qu'ils pourraient avoir à subir eux-mêmes les violences émanant de leurs ex-protégés ? Sont-ils ignorants ? Ne savent-ils pas qu'il existe encore pourtant des millions de Français qui pourraient à leur tour leur demander des comptes le jour du chaos passé ? Bien, la réponse, moi, je crois qu'elle est très très simple, là aussi. Il y a véritablement un projet, une volonté de dénationaliser les pays. Il ne faut plus de nations, il faut des territoires occupés par des communautés. Et par conséquent, pour arriver à cet objectif, ceux qui manipulent ce genre de choses sont prêts à aller jusqu'à la guerre. Eux ne risquent rien. Vous savez, les gens qui ont déclaré la guerre de 14 ne l'ont pas faite. Les gens qui ont vu déclarer la guerre de 39-45 ne l'ont pas faite. Et les gens qui sont en train de déclarer la guerre tribale en France ne la feront pas. Ils sont parfaitement à l'abri. D'ailleurs, si vous ne me croyez pas, il suffit d'aller vous promener dans certains quartiers de Paris où vous verrez qu'il y a à peu près 5 policiers au mètre carré autour de certains immeubles de haut luxe qui sont occupés par des politiciens de gauche, c'est-à-dire des politiciens mondialistes. Et je ne parle même pas des formidables forteresses qu'habitent, alors là non pas les politiciens, mais les véritables agents du mondialisme. Donc c'est très très clair que ces gens-là sont tout à fait prêts à affronter une guerre civile qu'ils ne feront pas et qui ne leur fera courir aucun risque. Les vrais racistes, nous dit un auditeur, sont ceux qui veulent supprimer les différences entre races au profit d'une race unique. Un auditeur nous invite à préciser que c'est l'extrême droite israélienne qui a assassiné Rabin et non la droite, prière de ne pas confondre les deux, pas plus en Israël qu'en France. Une auditrice nous fait remarquer que à Odéon, elle a assisté à une collecte de signatures pour une pétition en faveur des Africains, et elle dit si on refusait de signer, on se faisait traiter de tous les noms et on se faisait traiter de raciste par les récolteurs de pétitions. Une auditrice nous dit un représentant du général Aoun a accusé Samir Jaja d'être un trafiquant de drogue. Alors là, je vais répondre deux choses. La première, c'est que c'est évident, de même que dans la droite nationale française, chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on l'accuse d'être un flic ou un indicateur de police. C'est un des grands classiques. Au Liban, ils ont un petit peu amélioré ça. Quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on l'accuse d'être un trafiquant de drogue. Il se trouve que moi, je connais pas Samir Jaja. Je connais en revanche Valérand Saint-Just. C'est un homme pour qui j'ai la plus grande admiration, le plus grand respect et la plus grande amitié. Et je vois, je le connais intimement, si j'ose dire, je connais sa famille, je suis reçu chez lui, je connais ses enfants, on a passé des vacances en famille. J'ai la conviction absolue, inébranlable, que si Valérand Saint-Just, qui connaît Samir Jaja très bien, qui connaît sa famille aussi, qui connaît sa femme, si Valérand pensait que Jaja avait ne serait-ce qu'un demi-centime en poche qui soit d'origine douteuse ou qui viennent du trafic de drogue, il ne le défendrait pas, tout simplement. Parce que je sais, pour en avoir parlé avec Valent, que la drogue est pour lui, comme pour beaucoup de pères de famille, un ennemi absolu, un fléau épouvantable qu'il faut éradiquer par tous les moyens. Et je ne lui ai pas parlé de cette question, mais je ne serais pas étonné qu'il soit partisan des mesures de suppression de les plus radicales des trafiquants de drogue. Par conséquent, je n'imagine pas qu'il puisse accepter de défendre un homme politique qui serait un trafiquant de drogue. Voilà tout simplement pourquoi je crois que si vraiment un envoyé, un représentant du général Aoun a proféré cette accusation contre Samir Jaja, c'est du domaine de la calomnie politicienne, comme on en connaît en France tout le temps. On sait... Quand on voit comment est traité, par exemple, Jean-Marie Le Pen, quel compte il faut tenir de ce genre de calomnie politicienne. Une auditrice nous fait remarquer une chose pittoresque, c'est que il existe encore au Liban des citoyens libanais qui se réclament de leurs ascendances croisées, et elle dit qu'on les appelle là-bas des poulains, ce que je ne savais pas. Une auditrice nous demande de dire que Véronique Akobé, l'Africaine qui a été condamnée pour avoir assassiné son patron et blessé le fils de son patron, avait précédemment été violée et qu'on lui faisait subir les pires sévices. Et cette auditrice ajoute, si vous ne dites pas toute la vérité, on ne pourra plus vous croire pour d'autres sujets. Alors, je l'ai dit quand j'ai parlé du cas Akobé tout à l'heure, j'ai dit qu'elle avait déclaré qu'elle avait été violée et qu'elle subissait des sévices de la part de ses patrons. Mais j'ai ajouté que le tribunal n'a pas prêté foi à ces affirmations, puisqu'il n'a pas retenu, comme circonstance atténuante, à son crime, le viol ou la torture ou les sévices. Par conséquent, je ne peux pas être plus informé sur cette affaire que les magistrats qui ont conduit ce procès et que les jurés populaires qui ont condamné Véronique Akobé. Je suis obligé de dire que la thèse du viol et des sévices n'a pas été retenue par le tribunal comme circonstance atténuante. Un auditeur nous dit que la Grèce a signé un accord militaire avec la Syrie pour contrebalancer l'influence turque, ce qui expliquerait pourquoi le patriarche orthodoxe de Beyrouth n'est pas intervenu dans l'affaire Jaja. C'est tout à fait possible. Ça montre d'ailleurs à quel point il est complexe d'apporter des explications à des questions politiques. Il y a toujours des explications souterraines, des explications secrètes, des explications diplomatiques. Et en France, par exemple, l'attitude du pouvoir français vis-à-vis de l'occupant syrien au Liban et de l'occupant israélien au sud du Liban repose très probablement aussi, cette espèce de complicité avec l'occupant, s'explique très probablement aussi par des raisons cachées que, par conséquent, nous ne pouvons pas connaître. Un auditeur nous dit, plutôt que de renvoyer un journal qui ne donne que des informations mensongères, il est préférable de ne pas en acheter, ce qui, multiplié par un certain nombre, conduirait inévitablement les journaux au dépôt de bilan. Eh bien, ça c'est une réflexion tout à fait intéressante, mais pardon de vous le dire aussi brutalement, monsieur, elle est intéressante parce qu'elle est totalement fausse. Et je vais vous dire pourquoi elle est totalement fausse. Si vous voulez le vérifier, il vous suffit de lire « présent ». Tous les jours, présent, depuis quelque temps, dans présent, Jean Madiran fait publier une information sous forme d'une page affiche qui montre que il n'est pas nécessaire d'acheter les journaux pour que ces journaux continuent à sévir. Et que ce n'est pas en cessant d'acheter les journaux que vous les empêcherez de mentir. L'explication, elle est là. Présent nous dit, sous la plume de Jean Madiran, un quotidien qui vend plus de 8 pages à moins de 10 francs est en déficit. Ne vous laissez plus abuser par le trompe-l'œil des gros journaux fonctionnant magnifiquement. Le Monde a perdu 53 millions de francs en 93 et 71 millions de francs en 94. Il a dû recapitaliser. Libération a perdu 70 millions de francs en 94 et 80 millions de francs en 95. Il a été recapitalisé par le groupe Chargeur qui veut lui imposer de limiter ses pertes à 60 millions de francs en 96. Info Matin avait perdu 43 millions de francs en 93, 40 millions de francs en 94, 60 millions de francs en 95. L'industriel de gauche Rousselet, qui épongeait ses déficits, a voulu les limiter à 30 millions de francs en 96. C'était impossible. La grande presse est une supercherie qui ne fonctionne qu'en survie artificielle. Une presse déficitaire n'est pas une presse libre. Expliquez-le autour de vous. Détrompez le public abusé. Voilà ce que dit Jean Madiran dans Présent pratiquement tous les jours. Et voilà ce que les acheteurs de journaux ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe dans la presse. Le fait d'acheter un journal ou de ne pas l'acheter n'a strictement aucune importance sur la vitalité de ce journal, sur la survie de ce journal. Ces journaux qui perdent entre 50 et 60 millions de francs par an, c'est-à-dire entre 5 milliards et, pardon, entre 60 et 100 millions de francs par an, c'est-à-dire entre 5 milliards et 10 milliards de francs par an, autrement dit, qui perdent 10 millions de centimes par jour, 100 millions de centimes par jour, sont des journaux qui sont je dis bien 10 millions de centimes par jour, ce sont des journaux qui continuent à vivre parce qu'ils sont utilisés à des fins qui ne sont pas les fins, des fins commerciales directes, mais qui sont utilisés à des fins de manipulation. Ce sont des outils de manipulation. Par conséquent, un outil, on ne s'étonne pas qu'il coûte cher. Évidemment, un outil coûte de l'argent. C'est normal, étant donné qu'il sert à une tâche différente de celle qu'on pourrait penser être sa fonction normale, qui serait de gagner de l'argent. Et je vous le répète, il ne suffit pas de ne pas acheter les journaux pour qu'ils s'arrêtent de sévir, encore faut-il les combattre point par point, contre-argumenter leur désinformation, et comme le dit Jean Madiran en Présent, expliquer et détromper tout le temps le public abusé. Quoi d'autre ? Il y a 3 jours, à la télévision française, nous dit un auditeur, un grossiste en viande de Rungis a dit « Depuis l'élection de M. Chirac, la tête de veau est le morceau de viande le plus demandé. Pensez-vous qu'il y a un rapport avec ce qu'avait dit De Gaulle, les Français sont des veaux ?» Moi, je ne sais pas s'il y a un rapport, mais je trouve effectivement amusant que les Français se mettent soudain à manger de la tête de veau, sous prétexte qu'ils ont une tête de veau à l'Élysée. Un auditeur qui doit être un lecteur de Marc Dem nous fait remarquer que l'opération Sidaton, ou Sidaction, je ne sais pas très bien ce qu'il faut dire, a lieu le 6e jour du 6e mois sur 6 chaînes. On pourrait dire aussi en 96. Ça se heurte à un tout petit détail, c'est pas sur 6 chaînes, c'est sur 8. Cela dit, si vous vous intéressez à ce genre de réflexion, qui a eu le don de faire sortir de ses gonds l'excellent Michel Todat, qui est un très 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 brillant intellectuel, je sais que ça ne lui fera pas plaisir, très brillant intellectuel d'Action française, mais pas du parti, si j'ose dire non plus, qui a eu le don de faire bondir donc Michel Todat hors de ses gonds. Le livre de, si vous intéressez à ce genre d'information ou de sujet, le livre de Marc Dem, je le rappelle, s'appelle 666, et il est vendu, il est vendu 110 francs pour un exemplaire dédicacé, boîte postale 52, 78-101, Saint-Germain-en-Laye, CEDEX.
Dans votre pelisse en truc-muche, vous aviez l'air d'un ours en pluche. Je vous ai baptisé comme une cruche. Nounours, vous vous disiez aristocrate. Moi, dans le balai, je faisais la chatte. Aussitôt, vous me reluquâtes. Nounours, à la sortie, vous m'attendîtes. Le lendemain, à Maison Lafitte, gentiment, vous me conduisîtes. Aux courses, j'étais pas le genre cocotte minute. Pourtant le soir, ce fut la chute. Car dès ce jour-là, vous me plus. Nounours, comme j'ai jamais été en classe, vous n'osâtes pas me dire en face qu'il eût fallu que je m'éducasse. Nounours, j'appris des noms, j'appris des dates. Fallait-il que vous m'épatâtes? Très satisfait, vous m'installâtes. nounours. Cependant, jamais par la suite, plus jamais vous ne me sortiez. Vous passiez me voir très très vite. En douce, je ne pouvais pas faire de grabuge. Vous m'aviez dit, c'est mon refuge. Peut-être à cet instant, vous cruge. Nounours, un matin, d'une voix éteinte, vous m'avez dit, je pars pour Corinthe. Mais jamais plus vous ne revînt. Nounours, je vous attendis, lisant Socrate. Pendant ce temps-là, vous vous mariâtes. J'ai peine à croire que vous m'aimâtes. Nounours, vous souvenez-vous que vous eûtes une petite amie sur la butte, dont le cœur a cru faire la culbute. Of course, fallait-il que je vous écrivisse, que je rêve de revoir en coulisses, en m'étouffler dans sa pelisse. Nounours, 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 nounours.
Ça, c'est une chanson spéciale pour ceux qui prétendent qu'on est sectaire. Hein? Parce que je ne sais pas si vous avez reconnu la chanteuse. Il faut dire que la chanson est superbe, elle est très amusante. La chanteuse, c'est Madame Régine, qui n'est pourtant pas de nos amis. Hein? Je crois, en tout cas, elle ne nous considère pas, elle, comme de ses amis. Vous voyez que le jour où le docteur Merlin passera sur Radio J, on en reparlera. Une auditrice nous dit, vous avez parlé de tuer son ennemi et vous avez dit que ça n'était qu'une image. Et le petit Clamart, dit-elle, vous honorez pourtant Bastien Thiry. Ben oui, madame, tout ça me paraît parfaitement logique parce que, jusqu'à plus ample informé, celui qui a tué son ennemi au petit Clamart, c'est De Gaulle qui a tué Bastien Thiry. Et je vois pas pourquoi j'honorerais pas la victime. N'est-ce pas? Voilà. Un auditeur nous dit sur Ici Maintenant, toutes les nuits, il y a ce qu'on appelle des antennes libres où l'on insulte le Front National et Beketch lui-même. Qui peut lui poursuivre? Pas moi toujours. Parce que moi, j'ai déjà dit que je me foutais d'être insulté par mes ennemis, que je commencerais à me faire du souci le jour où ils diront du bien de moi. Et je trouve qu'il y a 54 radios sur la bande FN, FM décidément, et que ça ne sert à rien de censurer. La meilleure censure que vous puissiez exercer, c'est celle du bouton. Vous avez sur votre transistor un bouton sur lequel vous appuyez et l'émission s'arrête. Ça, c'est la censure. Moi, je n'écoute pas Ici Maintenant et comme ça, ça ne me gêne pas du tout d'y être insulté. Désolé, je vais avoir une nouvelle quinte de toux. Je vous repropose de la musique.
Vinette est dans une bistouterie, la bande n'a plus comme il faut, et la télé est très étourdie. Ah, c'est ça, d'après son seul défaut, mais le patron l'aime, c'est rien de le dire, et il vient même de lui offrir un petit collier de perles tout mignon, et qui valait à peine 3 millions, 3 millions. Et ben, c'est imprudent un jour, elle l'a perdu. Est-ce qu'on m'a dit, elle m'a provoqué, c'est dans un taxi. Je ne sais pas dans quel sens, et puis, faut qu'elle l'oublie dans un taxi. Pas quel malheur pour une jeune fille, mais qu'elle va dire sa famille. Elle l'a perdu, est-ce qu'on m'a dit, oui, mes amis, dans un taxi. Pourtant son patron la console, se soupire en venant dans mes bras de raconnu, petite fofonne, que ça fait beaucoup ne vous en faites pas, je pourrais vous remettre, venez faire un tour, ça va me permettre, parler d'amour, il lui offrit même quel danger, un petit bouquet de fleur d'oranger, la fleur d'oranger. Eh ben, ça pourrait rendre comme le collier, la perdu. Est-ce qu'on m'a dit, la pauvre chérie dans un taxi? Je ne sais pas dans quel sens, c'est-il, faut qu'elle l'oublie dans un taxi. À quel malheur pour une jeune fille. Mais qu'elle va dire sa famille. Elle a perdu, hein, pour ma vie. Oui, mes amis, dans un taxi. Aussi, mesdames, quand vous serez en voiture, je portant quelque chose de précieux, un collier, une canne, une fourrure, ouvrez l'œil, ouvrez même les deux, la moindre affaire, tenez-la bien, c'est nécessaire, dans votre main, et si c'est fragile ou pointu, faut faire prudence, vous n'asseyez pas dessus, car c'est petit, c'est peut-être comme ça que je suis. À ce qu'on m'a dit, la pauvre chérie sans un taxi. Mais après donc, quelle force est-il, faut qu'elle l'oublie sans un taxi. Oh, quel malheur pour une jeune fille, mais qu'elle va dire sa famille. Elle a perdu, à ce qu'on m'a dit, mais oui, mes amis sans un taxi.
Alors voilà, un auditeur qui nous écoute depuis, enfin qui m'écoute, je le trouve d'ailleurs magnifique de patience et de tolérance et d'entêtement, il faut dire qu'il m'écoute depuis près de 10 ans maintenant, parce qu'il m'écoutait déjà à l'époque de l'autre radio, et qu'on appelle entre nous, je vais vous faire une confidence, je l'avais déjà dit d'ailleurs, mais qu'on l'appelle le socialo, parce qu'il tient toujours des propos un petit peu grinçants et un petit peu agressifs, alors là il téléphone en disant, mais... Le juge Tchalian avait parfaitement raison de dire que Beketch était guéri, puisque ça fait 3 heures qu'il tient le micro et qu'il est dans une forme éblouissante. Eh bien, je suis désolé de vous faire de la peine, mais c'est vrai que je suis pas en mauvaise forme, mais là, je sens que ma gorge ne suit plus. Donc, je crains fort d'être obligé de vous infliger de la musique jusqu'à la fin de ces 3 heures, c'est-à-dire pour les 10 minutes qui suivent. Je vais essayer de tenir un petit peu pour faire les annonces, en m'excusant auprès de tous les auditeurs dont je n'ai pas cité les messages. Il y en a eu vraiment des, je crois, on peut dire peut-être des centaines, non? Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, vraiment énormément de messages. Je voudrais quand même saluer Rémi, il se reconnaîtra, et exécuter sa curieuse communication. Il me dit que l'équipe de France de ballet nautique au championnat d'Europe, qui devait se produire à Atlanta dans le cadre des Jeux Olympiques, je pense, et qui devait se produire à présenter une chorégraphie tirée du film La Liste de Schindler, a été interdite. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Je dois dire que l'idée qu'on puisse tirer une chorégraphie nautique du film de Spielberg, La Liste Schindler, qui raconte quand même comment des Israélites ont échappé au camp de concentration grâce à l'action auprès des autorités allemandes d'un homme d'affaires qui avait trouvé plus profitable pour sa petite entreprise de faire travailler les Israélites sans les payer plutôt que de les tuer. Je trouve que c'est un sujet bizarre pour un ballet nautique. Voilà tout ce que je peux dire. Je ne sais pas quelle conclusion il faut tirer de cette interdiction que me signale Rémi, mais je la trouve quand même... enfin, je trouve le projet de ballet nautique assez surprenant. Je me demande si c'était pas un tout petit peu de mauvais goût, tout ça. Une auditrice nous téléphone en disant « Nous allons souvent au Québec, et là-bas... » Au Québec, on peut vivre très très librement, et on peut dire tout ce qu'on veut, il y a une liberté d'expression totale. Et c'est amusant parce que, au même moment, je reçois le communiqué suivant, au moment où cette auditrice téléphone, je reçois le communiqué suivant de Coordination des Rosaires pour la Vie. Je crois que vous connaissez ça, on les a reçus à cette émission. Et voilà ce que je lis. Michel Tissot, président de l'Alliance chrétienne au Québec, vient d'être condamné à $500 d'amende pour avoir seulement prié pour la vie devant un avortoir à Montréal. Alors, en France, on met en prison et on punit de lourdes amendes les sauveteurs qui manifestent devant les portes des hôpitaux et qui donc sont réputés faire obstacle à la libre circulation des avorteurs et des mamans qui veulent faire tuer leur enfant dans leur ventre. Mais on n'a pas encore, que je sache, condamner quelqu'un uniquement parce qu'il priait devant un avortoir. Alors je me pose la question de savoir si véritablement le Québec est un havre de liberté comparé à la France. Je ne suis pas absolument convaincu de ça. Et une autre auditrice nous dit, il y a quelqu'un qui trouve qu'on devrait passer le docteur Merlin plutôt que Régine. Je promets qu'on va recevoir le docteur Merlin à ce micro très prochainement. Et alors là, je conseille aux flics de la pensée et à leurs chiens de garde de se mobiliser toutes oreilles déployées, toutes langues pendantes et toutes dents dehors, parce que ça va être très très politiquement incorrect. Ça, je vous le dis tout de suite. Alors une auditrice nous dit, à plusieurs reprises et encore à midi, on a pu voir sur les petits écrans un gosse d'à peine 12 ans préconiser l'usage des préservatifs au nom de la lutte contre le sida. L'utilisation d'enfants pour ce genre de promotion ne devrait-elle pas interpeller Monsieur Debré ? Là aussi, il s'agit d'incitation. Eh bien madame, monsieur, pardon, je vais vous lire un texte que j'ai reçu tout à l'heure de nos amis de la Cité Vivante, l'œuvre chrétienne de la Cité Vivante, pour la défense contre les incitations à la perversion des mœurs et à la violence. Voilà le texte que m'adresse cette association, le délégué média de cette association, M. Chevarex. C'est une copie d'une lettre qu'il a envoyée à un évêque. Alors écoutez bien, et si vous n'êtes pas assis, je vous conseille de vous asseoir parce que je pense que vous allez avoir du mal à rester sur vos jambes flageolantes. Au cours d'une émission de la station Radio Courtoisie le 1er juin 1996, où il était invité, un journaliste connu exerçant à France Inter a rapporté le fait suivant. Pour vous dire où nous en sommes, y compris dans des établissements qui se déclarent catholiques, un petit incident tout récent, c'était il y a quelques jours. Je connais tout près de Paris une famille de 11 enfants. Il y en a 10 dans la même école, ce qui est important, 10, ça fait beaucoup, à propos des contrats. Or, la maman trouve dans le cartable d'un de ses fils une brochure sur les préservatifs, sur l'usage quasi obligatoire. Pour un gamin qui doit avoir 12 ans ou quelque chose comme ça, la mère, évidemment très mécontente, s'adresse au directeur de l'école et lui dit « C'est scandaleux. Je ne mets pas mes enfants dans une école catholique pour qu'on fasse une propagande semblable. Sans ça, je n'ai qu'à les mettre dans des établissements classiques, laïques, où après tout ce genre de brochure est répandu par l'État, à nos frais, je souligne en passant. » Le directeur n'a rien voulu savoir et lui a dit « Madame, c'est vous qui avez tort. » Il l'a traité de ringarde. Cette personne furieuse a dit « Dans ces conditions, je retire les enfants, mes enfants de votre école, 10 d'un coup. » Alors, comme nous sommes début juin, il restait simplement un petit mois de classe. Elle a pris la décision pour le mois qui restait de les inscrire à un cours par correspondance, seulement pour un mois donc, et puis elle les a fait travailler à la maison. Mais le directeur était tellement furieux qu'il a déposé plainte pour mauvais traitement à enfants contre cette personne. Alors jusqu'à présent, là c'est Serge de Beketch qui parle, c'est pas la lettre de la Cité Vivante, jusqu'à présent on est dans l'ordre normal du délire actuel. C'est-à-dire qu'il y a un type qui prétend que d'empêcher ses enfants de se balader, des enfants de 12 ans, de se balader avec des préservatifs dans le sac à dos distribué par l'instituteur, c'est une atteinte aux droits des enfants et c'est un mauvais traitement à l'enfant. Mais où on confine alors au sommet dans la folie furieuse, c'est dans la suite. L'affaire viendra devant un juge lundi prochain. Ce lundi prochain, c'était lundi dernier, 3 juin. Voilà. C'est-à-dire que il s'est trouvé un magistrat pour accepter de donner suite à la plainte du directeur d'école. C'est quand même assez renversant. Vous avouerez qu'il y a de quoi... Est-ce que je le dis ou est-ce que je le dis pas ? Non, je dis pas. Alors disons se taper le derrière contre la suspension. Voilà, ça c'est correct. Non, j'allais parler de morsure autrement. Eh bien voilà, nous sommes quand même arrivés, péniblement, mais nous y sommes arrivés, au bout de cette émission. Je suis désolé de vous avoir infligé mes borborigmes, mes tout sautement, mais je peux pas faire autrement. Voilà. Merci d'être resté en ma compagnie. Bonne semaine. Que Dieu nous garde. Dans le froid et
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national sur 95,6 MHz à Paris. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech, diffusé en direct mercredi 5 juin de 18h à 21h.